Thank you. Lettre de Frère Joseph Branham du 21 septembre 2025. Les aigles se rassemblent. Chers acquittés, Frère Branham dit, je cite, « Donc là, ils, non pas le pécheur, ils, c'est-à-dire l'Église de ce jour-là, ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. » Pas vrai? Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Maintenant, ils portent un jugement défavorable sur la parole qui œuvre à travers l'homme. Fin de citation. Dès le commencement, le monde l'a refusé, l'a rejeté, a refusé de s'en tenir à sa parole en gardant leurs traditions, leurs credos, leurs idées. Ils ont toujours manqué le programme de Dieu, Dieu en tant qu'homme, qui était la parole et maintenant la parole qui œuvre à travers l'homme. Mais dans notre jour, il a dit, « J'aurai un petit groupe, quelques-uns que j'ai choisis. Ils étaient en moi dès le commencement. » Ils m'accepteront et croiront ma parole ainsi que l'homme que j'ai choisi pour révéler ma parole. Il sera ma voix pour eux. Ils n'auront pas honte de proclamer ma voix. Ils n'auront pas honte de dire au monde que je suis venu de nouveau et que je me suis manifesté à travers la chair humaine comme j'avais dit que je le ferais. Cette fois-ci, ils n'adoreront pas l'homme, mais ils m'adoreront moi, la parole qui parlera à travers l'homme. Ils m'aimeront et me proclameront de tout leur être. Ainsi je leur ai donné tout ce dont ils ont besoin pour devenir mon épouse. Je les ai fortifiés par ma parole, car ils sont ma parole faite chair. S'ils ont besoin de guérison, ils prononcent ma parole. Si quoi que ce soit leur fait obstacle, ils prononcent ma parole. S'ils ont un enfant qui s'est éloigné, ils prononcent ma parole. Quel que soit leur besoin, ils prononcent ma parole, car ils sont ma parole faite chair en eux. Ils savent qui ils sont, car je me suis révélé à eux. Ils sont restés loyaux et fidèles à ma parole, et ils s'unissent autour de ma voix. Car ils connaissent ma voix, ma parole, mon Saint-Esprit. Ils savent que là où se trouve la parole, c'est là où les aigles se rassembleront. Alors que son prophète prononcera sa parole et accusera cette génération de la deuxième crucifixion de Jésus-Christ, et qu'il déclarera qu'ils sont condamnés, l'épouse sera dans l'allégresse. Car nous savons que nous sommes son épouse qui a accepté et reçu sa parole. Nous nous écrions du fond de notre cœur et disons, Frère Branham dit, je cite, « Je suis à toi, Seigneur. Je me dépose moi-même sur cet autel aussi consacré que je peux l'être. Ôte de moi ce qui est du monde, Seigneur. Ôte de moi les choses périssables. Donne-moi les choses impérissables, la parole de Dieu. » Que je sois capable de vivre tellement près de la parole, que la parole sera en moi et moi dans la parole. Accorde-le, Seigneur, que je ne m'en détourne jamais. Fin de citation. Il y a la vie et il y a la mort. Il y a un bon chemin et il y a un mauvais chemin. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Ce message, cette voie, est le moyen parfait que Dieu a pourvu pour aujourd'hui. Venez vous joindre à une partie de la puissante épouse de Dieu, alors que nous nous rassemblerons autour de sa parole révélée pour entendre le message, l'accusation du 7 juillet 1963, le matin. Frère Joseph Branham.
Merci, Frère Neville. Restons debout un instant maintenant pour prier. Inclinons la tête. Y aurait-il des demandes que vous voudriez exprimer? Si vous voulez bien les signifier par une main levée, dites simplement à Dieu, « Je, ayez présent à l'esprit ce que vous voulez lui demander, et croyez-le de tout votre cœur, pendant que moi aussi, j'offre ma prière pour vous. » Père Céleste, nous sommes, considérons vraiment ceci comme un très grand privilège, de venir à la maison du Seigneur en cette journée sombre, et d'y voir briller la lumière du Fils de Dieu, et d'entendre le Saint-Esprit chanter à travers les gens, et parler à travers les gens. C'est tout simplement un petit faisceau de la lumière du Fils à l'intérieur. Nous te remercions pour ceci, la lumière céleste du Fils qui enveloppe nos cœurs. Combien nous t'en remercions. Maintenant, ton peuple vient de lever la main dans cette assemblée pour indiquer qu'ils ont des demandes et qu'ils désirent que tu les exauces ce matin. Je te prie, Père, d'accorder chacune de leurs demandes. Il y en a beaucoup empilées sur la chair. Et il y a tant de demandes partout. Des gens qui sont malades, qui souffrent. Des appels longue distance, une cinquantaine par jour. Oh Dieu, que devons-nous faire? Conduis-nous, Seigneur. Nous ne savons pas quelle direction il faut prendre, ni ce qu'il faut faire. Mais toi, tu peux diriger ces choses. Aussi, nous te prions de nous accorder cela. En effet, notre intention, Seigneur, c'est que cette vie que nous avons sur terre, elle nous a été donnée par toi. Alors nous voulons l'utiliser pour t'honorer. Maintenant, guide-nous dans ces choses, Père. Bénis-nous aujourd'hui, alors que nous nous sommes assemblés pour écouter la parole du Seigneur, pour chanter les cantiques, pour prier. Exauce nos prières, réjouis-toi avec nous dans nos cantiques, et parle-nous à travers la parole, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne connais vraiment pas d'endroit où j'estimerais que j'ai un plus grand privilège que de me tenir en chair afin de rompre le pain de vie pour un peuple dans l'attente, affamé et assoiffé. Ceci est un grand privilège. D'abord, je voudrais demander si quelqu'un de la famille Wright est ici. Hattie ou Orville ou quelqu'un? Hattie. Est-ce qu'Orville est avec toi, Hattie? Eh bien, demande-lui de passer à la maison tout de suite après, au sujet de ce dont je lui ai parlé, tu sais. Qu'il fasse un saut à la maison, si possible. J'ai oublié d'apporter ça avec moi ce matin. Quelque chose pour le petit chien qu'ils ont là-bas. Alors, si vous le voulez bien, passez donc tout de suite à la maison, quand vous prendrez la route pour votre sœur après le service. Maintenant, Edith, la sœur de Hattie, que nous connaissons comme la jeune fille qui est infirme depuis qu'elle est toute petite. Maintenant, elle est une femme et elle est très mal en point. Bon, il y a environ un an, je suis allé là-bas au moment où elle a fait sa première crise et j'ai tout de suite découvert quel était son problème avec l'aide et la grâce de Dieu. Maintenant, en réalité, le problème chez cet enfant, elle est assise là, ses membres sont comme soudés, elle ne peut même pas les ouvrir. Et c'est dû à la pression énorme exercée sur le système nerveux. Mais ce qu'il y a, physiquement, il n'y a rien qui ne va pas chez cet enfant, à part l'affliction de la paralysie infantile dont elle est atteinte depuis l'âge d'environ 6 mois. Elle a poussé des cris, elle a pleuré presque toute sa vie, jusqu'à ce que nous avons prié pour elle il y a bien des années. Et après ça, elle a toujours été heureuse, jusqu'à il y a environ un an. Et maintenant, ce qu'il y a, en réalité, c'est la ménopause. En d'autres termes, c'est son retour d'âge. Et ses nerfs sont dans un état terrible. La jeune femme s'imagine qu'elle est en train de mourir, que d'une heure à l'autre, elle ne va plus vivre. Et vous savez, des femmes qui sont robustes et en bonne santé traversent une période terrible. Parfois, elles sont obligées de recevoir des injections d'hormones et d'aller à l'hôpital psychiatrique, de recevoir des électrochocs et tout pendant cette période-là. L'être humain traverse deux périodes de changement dans sa vie. On a la période de changement pour passer d'un garçon à un homme, pour passer d'une femme, d'une jeune fille à une femme. Vers l'âge de 16, 17 ans, ils sont comme une bande d'étourdis. Et si vous pouvez simplement être patient avec eux pendant qu'ils sont à cet âge-là. J'ai une fille qui est à cet âge-là en ce moment, Rebecca. Priez pour elle. Et Billy, chacun de nous, nous traversons cette petite période de turbulence à cet âge-là. aiment. Et alors, il faut être patient avec eux, comprenant que c'est quelque chose qu'ils doivent traverser. Et maintenant, Edith, elle passe tout simplement par ce changement des 7 ans. Tous les 7 ans, votre vie change. Là, c'est 7 fois 7, voyez-vous? Et alors, c'est ce qui rend les choses un peu difficiles. C'est un changement complet, et ça perturbe les femmes. En général, les hommes ont un drôle de comportement, un peu bizarre, pendant cette période-là, et parfois, ils quittent leurs femmes. Mais quant aux femmes, elles ne sont plus fertiles après ça. Tous, nous passons par là. Nous devons nous rappeler que ce sont des choses où nous devons exercer notre patience les uns avec les autres, et comprendre ces choses. La petite Edith s'est retrouvée dans cet état-là. Elle a perdu beaucoup de poids et elle a mauvaise mine. Et tenez, un soir, pas tous ensemble, mais allez donc faire un tour là-bas. Il reste à son chevet jour et nuit. Allez faire un tour là-bas, vous de ce tabernacle, et des autres tabernacles, des tabernacles frères ici. Quelques-uns d'entre vous, allez voir la famille Wright. Je suis sûr qu'ils apprécieraient ça. Allez donc là-bas, vous asseoir avec eux pendant un petit moment, causer avec eux, leur serrer la main, et juste une petite visite amicale, c'est tout. Nous oublions ça si facilement, vous savez. Quand c'est dans notre propre foyer que ça arrive, alors nous l'apprécions. Et nous devons nous rappeler que les autres aussi, ils l'apprécient. Et la famille Wright, je suis sûr qu'ils apprécieraient ça. Je sais que vous l'auriez fait si vous aviez su que cette situation existait. Mais vous ne le saviez pas. Alors c'est pourquoi je vous en parle ce matin, pour cette raison. Allez rendre visite à la famille Wright et essayez d'égayer Edith. Bon, ne lui dites pas qu'elle a mauvaise mine. Dites-lui qu'elle a bonne mine, qu'elle va se rétablir. Et effectivement, elle va se rétablir si nous continuons simplement à la soutenir. Nous sommes là pour ça. Elle est notre sœur. Et nous sommes là pour soutenir cet enfant pendant ces moments qu'elle traverse. Tout comme moi, j'aimerais que quelqu'un me soutienne et prie pour moi pendant que je traverse mes épreuves. Et vous aussi, vous aimeriez que quelqu'un le fasse pendant que vous traversez les vôtres. Et la famille Wright est là de longue... Ils sont parmi les membres les plus anciens qui fréquentent cette assemblée. Il y a eux, je pense, et frère Roy Slaughter. Et sœur Slaughter, je les ai vus il y a quelques instants. Je les ai salués de la main pendant qu'ils entraient. Je me suis dit en moi-même, en tournant le coin en voiture, ça fait combien d'années que je vois frère et sœur Slaughter venir s'asseoir dans cette église. Malgré les hauts et les bas, ils continuent à avancer. Et la famille Wright et tous ces gens-là, on les apprécie, voyez-vous. Alors, montrons-leur combien nous les apprécions. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un message long. Le sujet, c'est une accusation. Et puis ce soir, on m'a dit qu'il y aurait la communion et le lavage des pieds et tout. Alors, le pasteur va prêcher et nous viendrons. Si vous êtes dans les parages, venez passer des moments agréables à écouter le message que le pasteur nous transmettra de la part du Seigneur. Et puis aussi à participer au lavage des pieds et à la communion ce soir. Ce sera vraiment une soirée bien remplie. Alors, si vous n'avez pas d'autre endroit où aller, nous serions contents que vous soyez parmi nous. Et nous voulons montrer que nous apprécions Don Ruddle. Et notre frère, et frère Jackson, et ses frères, ce sont nos églises fraternelles, nos églises sœurs, qui nous sont associées. Frère Jacques Palmer, ici, qui s'occupe du groupe qui est en Géorgie. Nous voulons montrer que nous apprécions ces hommes-là de tout notre cœur. En effet, les fois où nous faisons des réunions, quand je suis là, alors ils viennent nous rendre visite, et nous apprécions ça. Ce matin, je vois mon bon ami, le docteur Lee Vail, et sa femme. J'ai d'abord reconnu Sir Vail là-bas, et je promenais le regard pour voir où était frère Lee. J'ai selon notre vieille expression du Sud, un compte à régler avec lui, voyez-vous. Quand je l'aurais attrapé, chaque jour à la convention là-bas, je cherchais à le voir pour qu'il vienne m'aider. Et je disais, eh bien, si Lee se présente, faites-le prêcher. Et moi, je m'occuperai simplement de prier pour les malades. Nous l'avons fait appeler et tout, mais nous n'avons jamais réussi à le trouver. Alors, j'ai ça, ce compte-là à régler avec lui, quand je pourrai causer avec lui. Et nous sommes heureux que frère et sœur Vail soient ici ce matin. Il y en a peut-être beaucoup d'autres ici. Nous n'en savons rien. Je vois une sœur ici, qui est de Chicago, je crois. Je n'arrive pas... Je connais ce groupe-ci, mais je n'arrive pas à tous les nommer. Alors nous apprécions les gens de partout, d'où que vous soyez. Je vois les frères ici, deux jeunes hommes qui doivent être ordonnés, jeunes dans le ministère du moins, ce matin. deux de nos frères de couleur de New York qui viennent de recevoir leurs papiers par l'entremise de l'église de Philadelphie. Et ils déclarent que c'est de cette église-ci qu'ils viennent. Alors nous allons leur imposer les mains afin que Dieu bénisse leur ministère à New York. Nous avons deux ou trois petites églises là-bas, je crois. Frère Milano est responsable de l'un des petits groupes là-bas, et nous les apprécions, et en voici maintenant deux autres qui vont aller, qui vont faire des réunions pour les gens de là-bas. Et nous apprécions ces choses-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a tellement de gens. Je promène le regard et j'en vois plusieurs. Je n'arrive pas à tous les nommer, mais je sais qu'ils comprennent. Maintenant, je crois, si notre sœur, si la pianiste ou quelqu'un d'autre veut bien venir jouer pour nous, quand la pierre ardente toucha le prophète, le rendant aussi pur qu'on puisse l'être, quand la parole de la voix de Dieu dit « Qui marchera pour nous ?», il répondit « Me voici, envoie-moi », alors que nous ordonnons ces ministres par l'imposition des mains. Bon, nous comprenons bien que la manière scripturaire d'ordonner un ministre, c'est par l'imposition des mains. Je pense que c'est là que nos frères de la dernière pluie, ou ceux de Battleford et tout, se sont embrouillés. C'est quand ils ont vu l'imposition des mains comme un moyen de communiquer des dons spirituels. Or, nous ne croyons pas que les dons sont conférés par l'imposition des mains. Nous croyons que l'imposition des mains, c'est une approbation de ce que nous avons déjà constaté. Voyez, c'est un « Amen ». Voyez. Or, quand on a imposé les mains à Timothée et à ses frères, c'est qu'on avait remarqué que le don était dans ces hommes. Vous vous souvenez, ranime ce don qui a été en toi, que tu tiens de ton aïeul, Loïs. Et c'est ce qu'ils avaient vu en Timothée. C'est pourquoi les anciens lui ont imposé les mains et l'ont ordonné. Il ne s'agit pas d'imposer les mains à un homme en qui rien ne s'est manifesté jusque-là, voyez-vous. Et ils ont demandé les bénédictions, tout simplement. Et c'est ce que nous croyons tous. Donc, nous ne communiquons pas les dons spirituels. Nous ne faisons que reconnaître leur présence et nous imposons les mains à ces gens en guise d'approbation. Comme quoi, nous croyons que Dieu a fait ces choses pour les gens. J'ai remarqué ce matin, tout au fond, le frère McKinney le ministre méthodiste qui est assis là-bas, qui lui aussi a été ordonné dernièrement ici, je crois que c'est bien ça, à cette estrade, afin d'apporter la parole là-bas dans l'Ohio, avec frère et sœur Down, et le groupe de l'Ohio. Oh, quand nous nous assemblons tous, ces petits lieux qui se réunissent, c'est formidable. Aucune dénomination, aucune attache du tout, si ce n'est Jésus-Christ, lui seul, voyez-vous, simplement assis ensemble dans les lieux célestes. Très bien, sœur, si vous voulez bien nous donner, chantons donc ce couplet-ci. Quand la pierre ardente touche à le prophète, chantons-le en chœur maintenant.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, am I send me? Speak, my Lord, speak, my Lord. Our brethren will come forth if you...
Maintenant, les frères vont s'avancer, si vous le voulez bien. Que les autres frères dans le ministère s'avancent, s'ils le veulent bien, ceux qui vont leur imposer les mains. Seigneur, et les associés de ce tabernacle, frère Raddle, frère Lem et les autres, juste ici, si vous le voulez bien, et je te répondrai, envoie-moi.
Oh, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brethren, hasten to their rescue. Quickly answer, Master, here am I. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me.
Comment vous appelez-vous, frère? Frère Orlando Hunt de New York, c'est bien ça? Et frère Joseph Coleman. Maintenant, si vous voulez bien vous tourner vers l'auditoire, mes frères. Le frère Hunt et le frère Coleman, qui ont un appel de Dieu dans leur cœur, et comme nous venons de chanter le cantique, des millions se meurent dans le péché. Ils ont entendu leurs cris tristes et amers, et nous leur demandons, « Dépêchez-vous, frères, allez vite à leur secours. » Voyez, répondez aussitôt, « Maître, me voici. » C'est la réponse qu'ils font ce matin. Et maintenant, nous, comme frères de cette église et de ce groupe, nous donnons notre approbation à ceci en leur imposant les mains et en leur donnant la main d'association, afin qu'ils soient des témoins de Jésus-Christ avec notre appui ici, comme quoi nous les soutiendrons dans tout ce qui est honorable et juste dans l'Évangile. Nous prierons continuellement pour ces hommes, que Dieu les utilise pour son honneur, et puisse leur ministère être prospère et grand à New York. Puisse leur vie être pleinement à son service, alors qu'ils rentreront de précieuses gerbes dans le royaume. Puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse. Puisse le Seigneur Dieu les soutenir par sa présence perpétuelle, leur donner la santé et la force, et les garder à son service, jusqu'à ce que Jésus-Christ les appelle à rentrer à leur demeure éternelle dans le repos du ciel. Maintenant que cette assemblée, alors que nous inclinons la tête et que nous, les ministres, nous nous avançons pour leur imposer les mains. Notre Père Céleste, nous imposons les mains à Frère Hunt, au nom du Seigneur Jésus-Christ, car à notre connaissance, Seigneur, c'est un homme juste. Et nous te remercions pour cet appel au ministère dans sa vie. Seigneur, parle à travers ce frère. Gagne des âmes, apporte la délivrance, Seigneur, à ceux qui sont captifs, autant par la maladie que mentalement, physiquement et spirituellement. Seigneur, donne-lui un ministère véritable, afin qu'au bout du chemin, il puisse parcourir du regard ce long sentier derrière lui, et voir qu'il a pu, par la grâce de Dieu, capturer tous les ennemis. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, que nous le demandons. Amen. Frère Coleman aussi, nous lui imposons les mains comme témoin, Seigneur, pour donner notre approbation à son appel, comme quoi nous, cette Église, ce groupe de gens, nous croyons qu'il est un serviteur de Christ. Et nous te demandons de le bénir et de lui donner un ministère grand et puissant, afin qu'il gagne des âmes à toi, Seigneur, et délivre les captifs et brise les pouvoirs de Satan autour de la vie des gens qu'il côtoiera. Donne-lui, Seigneur, une vie productive, une bonne santé et de la force. Et lui aussi, quand il arrivera au bout du chemin, ô Dieu, accorde-lui de pouvoir parcourir du regard un long sentier et de voir que par la grâce de Jésus-Christ, il a pu briser toutes les chaînes de l'ennemi pour l'honneur de Dieu. Père Céleste, maintenant puissent ces hommes vivre et travailler vraiment à la moisson de Dieu. Puissent tes bénédictions reposer sur eux, et sois avec eux jusqu'au moment où nous nous rassemblerons tous au pied de notre glorieux Maître. C'est au nom de Jésus-Christ que nous le demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère Hunt, qu'il vous donne un ministère fructueux. Que Dieu vous bénisse, frère, et qu'il vous donne un ministère fructueux à vous aussi. Frère Coleman, que Dieu vous bénisse.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Oh, speak, may he speak to many young hearts.
Appelé de Dieu,
speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord.
combien nous remercions le Seigneur ce matin pour le grand honneur qu'a cette Église d'être témoin de l'envoi de ministres sur le champ de travail en ce dernier jour. Que la grâce de Dieu vous accompagne, mes frères. J'espère qu'il vous enverra dans les champs de mission à l'étranger et partout dans le monde. Prêchez ces richesses insondables de Jésus-Christ. Il y a un si grand besoin là-bas. Il y a un si grand besoin dans le monde aujourd'hui. Maintenant, il y a tant de ces bonnes choses qu'on est obligé d'en prendre un peu ici et un peu là pour pouvoir incorporer tout ça dans le service de ce matin. Bon, aujourd'hui, nous allons... Je traite un sujet que je... Parfois, je n'aime pas en arriver à ces moments assez dramatiques. Maintenant, dimanche passé, si certains d'entre vous n'étaient pas ici et que vous ne vous êtes pas procuré le message, le troisième Exode, et si vous aimez écouter les bondes, je crois que vous prendrez plaisir à écouter celle-là, le troisième Exode. Qu'est-ce que nous avons là? Un garçon malade ou quoi? Oh, un petit garçon infirme, oui. Que Dieu le bénisse, c'est ça. Bien, à la fin du service, nous devons prier pour les malades, de toute façon, voyez-vous. Alors nous vous demandons de vous procurer, si vous le pouvez, ce message sur le troisième Exode. La troisième fois que la lumière, que l'ange du Seigneur, qui a appelé le peuple à un Exode, s'est montré visiblement sur terre au cours d'un exode. Voyez. Moi, je trouve ça vraiment remarquable. Le troisième exode. Est-ce que ça vous dérangerait que j'enlève mon veston? Il fait terriblement chaud dans le tabernacle ce matin. Et la seule climatisation que nous avons, c'est ce que vous pouvez produire en vous éventant. Vous devez produire votre propre énergie. Nous prévoyons donc installer un jour un système de climatisation ici, dès que nous pourrons arranger tout ça. Maintenant, nous apprécierions si vous aimez à entendre le message. C'est le troisième exode. Bon, nous avons connu beaucoup d'exodes. Mais nous pouvons établir de façon très nette le lieu, le temps de trois exodes, où Dieu, sous la forme d'une colonne de feu, est descendu pour appeler des gens et pour les mettre à part. Donc, il s'agit de mettre des gens à part. Et nous voyons que, quand il a convoqué son premier exode, il allait devant eux dans une colonne de feu, et il les a conduits vers, il les conduisait vers un pays. Où plus tard, il est apparu devant eux sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Celui-ci est venu de Dieu et il s'en est allé à Dieu. Et alors, il a été rejeté. Et là, il était venu pour appeler un peuple à sortir de l'état de formalisme dans lequel il s'était retrouvé. Comme celui dans lequel il s'était retrouvé là-bas en Égypte, alors qu'il s'était livré au péché et aux voies des Égyptiens. Et Dieu les avait appelés à sortir. Et là, nous constatons que la deuxième fois, pendant la captivité, ils avaient cédé à un empire romain. Ils s'étaient lancés dans les credos et ils s'étaient éloignés de la vraie sincérité de l'adoration. Alors Dieu, de nouveau, il a lancé un autre exode. Il est apparu sous la forme d'un homme qui a conduit des hommes. Dans le premier exode, il était une colonne de feu. Ensuite, quand il est venu sur terre, dans le pays même, où il les avait conduits, quel beau type ce sera, dans le millénium, là où il conduit l'Église maintenant. Nous le verrons tel qu'il est, et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Et aujourd'hui, à la lumière de l'Évangile, qui se reflète à partir d'une lumière, d'une colonne de feu visible au milieu de nous. La science l'a vue, elle est dans les magazines, et partout dans le monde. Et elle a été reconnue autant scientifiquement que spirituellement comme étant la même colonne de feu, par les mêmes signes et par les mêmes choses qu'elle a toujours faites. Au milieu de ces jours où il y a beaucoup de fanatisme et autres, malgré tout ça, Dieu s'identifie toujours. Or, c'est ce que nous constatons, et comme c'est glorieux de savoir que cet hôte où nous habitons sur la terre, un jour, ce vieux corps frêle dans lequel nous connaissons la maladie et l'affliction, il sera transformé et rendu semblable à son corps glorieux. Alors nous le verrons tel qu'il est, et nous serons avec lui dans ce pays vers lequel nous sommes en route aujourd'hui. Oh, ça nous donne presque envie de nous lever et de chanter « Je vais à la terre promise ». Probablement qu'ils vont chanter ça au service de baptême de toute manière, parce que c'est ce que nous chantons au baptême. Maintenant, je m'adresse aux frères, aussi bien à ceux qui sont ici qu'à ceux qui sont dans le pays, là où parviennent les bandes, c'est-à-dire tout autour du monde. Ces messages ne visent aucun individu en particulier, et nous ne voudrions pas que les gens s'imaginent que nous sommes une espèce de clan ou une bande de fanatiques, que nous nous sommes rassemblés pour nous séparer des autres en semblant ne pas avoir la foi, ou pour nous séparer des autres en nous opposant à qui que ce soit, ou en nous opposant à Dieu, ou en nous opposant à l'Église. Nous sommes pour l'Église, mais nous essayons seulement de montrer par le Saint-Esprit et avec son aide la raison de cette ségrégation que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne croyons pas à ça. Nous croyons que toutes les églises devraient être en communion les unes avec les autres, et non séparées les unes des autres. Les méthodistes dans leur groupe, les baptistes dans leur groupe, et les unitaires, les trinitaires, et quoi encore, toutes séparées. Nous croyons qu'elles devraient être ensemble, formant un seul grand groupe uni, le corps de Jésus-Christ, dans l'attente de ses glorieuses venues. Elle ne devrait pas du tout être séparée. Et la cause de cette séparation, forcément qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle nous ne sommes pas ensemble. En étudiant ça, ce dont je me rends compte en étudiant ça, c'est que ce n'est pas la couleur de notre peau. En effet, les jaunes, les noirs, les bruns et les blancs, tous, ils se séparent dans différentes organisations. Ce n'est pas la sorte de nourriture que nous mangeons. Nous mangeons tous la même nourriture. Nous portons le même genre de vêtements et tout. Mais je vois que la raison fondamentale, c'est que l'homme s'est écarté du sentier battu de l'enseignement de l'Évangile. Chaque homme, il doit y avoir un moyen de montrer de façon très nette ce qui est vrai et ce qui est faux. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de ne mettre aucune interprétation à la parole. Lisez-la telle qu'elle, tout simplement, et croyez-la telle qu'elle. En y mettant sa propre interprétation, c'est ce qui lui fait dire quelque chose d'autre. Et on en revient alors à l'organisation originelle de l'Église catholique. En effet, l'Église catholique croit que Dieu est dans son Église, et la parole n'a rien à voir là-dedans. Dieu est dans son Église. Et nous, les protestants, comme nous le constatons, et c'est selon Apocalypse 17, que toutes elles s'étaient rassemblées, et que l'Église catholique était la mère de toutes les organisations. Et nous voyons que l'organisation protestante, bien qu'elle soit aveugle à ça, elle a la même nature que l'Église catholique. La Bible appelle l'Église catholique une prostituée, et elle appelle l'Église protestante des impudiques. Elle dit que la prostituée était la mère des impudiques. Et ça, ce sont des gens, c'est une femme de mauvaise vie qui n'est pas fidèle à ses vœux de mariage. Tous, nous affirmons être l'épouse de Christ. Et pourtant, combien nous sommes infidèles? À quoi consiste cette infidélité? À mener une vie qui est contraire à la discipline que Dieu a établie et selon laquelle son épouse doit vivre. Voilà mon opinion là-dessus. La Bible, elle est la parole infaillible de Dieu. C'est ce que je crois. Et donc, nous voyons que l'Église protestante, pour pouvoir former une organisation, va même jusqu'à se séparer des Écritures pour former son organisation. Des ministres ordonnés vont s'accrocher à des choses qu'ils... Or, ils viennent dans mon bureau et dans les pièces, des centaines d'entre eux, et ils me disent, « Frère Branham, vous adressez ces défis aux gens. Personne n'ira s'opposer à ça. Ils savent que c'est la vérité. » Eh bien, je leur dis, « Pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas ?» Eh bien, voyez-vous, si je le fais, je devrais mendier mon pain. Plus personne, j'ai un ministère, il faut que j'atteigne le Seigneur, et il faut que j'atteigne les gens, et je n'aurai aucun soutien. Vous ne vous rendez donc pas compte, c'est Christ qui est notre soutien, c'est la Bible qui est notre soutien, voyez. Mais là, voyez-vous, alors elles sont dans le même sac. Là, l'Église protestante, c'est exactement la même chose que l'Église catholique. L'Église catholique se fiche. Eh bien, je ne dis pas, je ne manquerai pas de délicatesse au point de dire qu'ils se fichent de ce que dit la Bible. Ils croient la Bible, mais voyez-vous, ils ont la succession apostolique. C'est sur cette base-là que l'Église catholique est établie. C'est la succession des papes. Elles disent de Pierre qu'il a été le premier pape, et ainsi de suite. Or, ils croient ça. Ils croient ça dur comme fer. Et les protestants, voyez-vous, ils se rassemblent, et ils forment une organisation, tout comme ce qu'ils avaient fait à Nicée, Rome, où ils avaient organisé l'Église catholique au Concile de Nicée. Et nous voyons que l'une et l'autre sont pareilles. L'une et l'autre sont pareilles. Elles abandonnent la parole de Dieu pour former une organisation, voyez. Et puis, pour ce qui est de bien des grandes vérités qui semblent bizarres aujourd'hui à eux, elles leur sont étrangères. Parce que tout ce qu'ils ont reçu comme enseignement, c'est un rituel. Nous n'avons aucun rituel, si ce n'est la Bible. Nous n'avons rien d'autre que la sainte parole de Dieu, et c'est à elle que nous nous en tenons. Et maintenant, aujourd'hui, je voudrais prendre un instant pour lire un passage dans la parole sainte et sacrée de Dieu, et celui-ci se trouve dans le livre de Luc. Au chapitre 23 de Luc, et c'est ce qui va servir de base, fournir une plateforme à ce que je veux dire. L'idée fondamentale du sujet sur lequel je veux parler. Donc, vous prenez maintenant dans Luc le chapitre 23, et je veux lire un seul verset. C'est tout ce qu'il me faut comme base ce matin pour faire reposer ceci. Maintenant, nous lisons au chapitre 20, au chapitre 23, le verset 33 du chapitre 23. Lorsqu'ils arrivèrent au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Maintenant, je voudrais tirer quatre mots de là, de cette lecture, pour qu'il serve de base à ce que je veux dire. Là, ils le crucifièrent. Quatre mots. Et maintenant, mon sujet, ça s'intitule Je porte une accusation contre les églises dénominationnelles d'aujourd'hui et aussi contre un grand nombre des églises indépendantes. Pour avoir de nouveau crucifié Jésus-Christ aujourd'hui. Je les accuse. Ce matin, ça s'intitule l'accusation. Je voudrais m'y référer un peu comme si ça se passait dans une salle d'audience d'un tribunal, où il y aurait, après tout, la chair et l'Église forment une salle d'audience. La Bible dit que c'est un tribunal. Que le jugement doit commencer par la maison du Seigneur. Et ceci, c'est comme le trône, et le jury, et les témoins, et tout. Et comme témoin, aujourd'hui, j'ai la parole de Dieu. Et l'accusation que je porte, c'est contre les églises d'aujourd'hui. Or, je n'implique pas le pécheur dans cette affaire. J'adresse ceci uniquement à l'Église. Ce sera enregistré sur les bandes, là. Et je vais tâcher de faire aussi vite que possible. J'accuse cette génération de la deuxième crucifixion de Jésus-Christ. Et maintenant, pour ce faire, en cet âge où nous vivons, je dois, pour faire ceci, je dois fournir une preuve. Si je dois porter une accusation, il faut fournir une preuve du délit qui a été commis. Je dois, pour pouvoir les accuser, je dois fournir la preuve pour prouver ça, qu'il en est bien ainsi, afin que ce que je dis ne soit pas réfuté par le juge principal. Et moi, je me présente comme avocat dans cette accusation, en prenant comme témoin la parole de Dieu. J'accuse cette génération de cette crucifixion. Je dois démontrer, et je vais démontrer, que l'esprit qui a amené la première crucifixion, c'est ce même esprit qui est sur les gens aujourd'hui, et qu'il fait la même chose. Je dois le faire. S'il s'agit d'une crucifixion, qu'ils ont effectivement crucifié. Je dois démontrer aux gens que cette même attitude qu'ont les gens aujourd'hui, elle produit spirituellement la même chose que ce que les gens avaient fait physiquement en ce temps-là. Ils avaient crucifié physiquement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et maintenant, aujourd'hui, par la même parole, et par le même Saint-Esprit, et par la même parole, je voudrais montrer aux églises dans quelle position elles se trouvent. C'est-à-dire qu'elles sont en train de faire la même chose aujourd'hui. Et la Bible avait dit qu'elles le feraient. Et prouver que c'est en ce jour-là que nous vivons actuellement. La chose n'aurait pas pu se faire il y a quelques années. Je dirais qu'il y a 50 ans, la chose n'aurait pas pu se faire. Mais aujourd'hui, ça tombe vraiment à point. Et la chose n'aurait pas pu se faire il y a peut-être 10 ans. Mais aujourd'hui, ça peut se faire. Parce que le temps est écoulé. Nous sommes au temps de la fin. Et je crois, comme son serviteur, que nous sommes presque sur le point de passer de ce pays-ci dans un autre. Par conséquent, le temps de la repentance, pour ce qui est d'une nation, il est passé. Je crois que cette nation ne peut pas se repentir. Je crois qu'elle a franchi la ligne qui sépare la miséricorde et le jugement. Je crois qu'elle est chancelante dans la balance. Frère Branham, avant de vous engager dans ce procès, comment allez-vous pouvoir prouver ça? Tout simplement comme ceci. Nous sommes coupables des mêmes péchés que ceux à cause desquels Dieu avait détruit le monde à l'époque du monde antédiluvien. Nous sommes coupables des mêmes péchés à cause desquels il avait détruit le monde à l'époque de Sodome et Gomorre. Et maintenant, et nous avons toutes les mêmes preuves spirituelles ici devant nous, toutes les mêmes preuves spirituelles portées à la connaissance du monde entier, que celles dont Dieu s'était servi pour faire descendre sa miséricorde sur ces générations-là. De même, le fait d'avoir rejeté ça avait amené le jugement. Alors, si cette génération-ci a rejeté la même miséricorde qui avait été repoussée à ces époques-là, il serait injuste de la part de Dieu de laisser les gens échapper au jugement. Comme Jack Moore, un de mes amis, le disait une fois, si cette nation s'en sort sans recevoir de Dieu un châtiment, alors Dieu sera dans l'obligation de ressusciter Sodome et Gomorre et de s'excuser de les avoir brûlés. Or, nous savons que spirituellement, les gens font la même chose aujourd'hui. En effet, et ils le font dans le même but, et de la même façon qu'ils l'avaient fait quand ils avaient crucifié le Seigneur physiquement. Ils le font par jalousie, parce qu'ils sont aveugles spirituellement. C'est qu'ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas écouter cela. Jésus, pendant son voyage ici-bas, il a dit, Ésaïe a bien fait mention de vous. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous n'entendez pas. Voyez? Le même motif, le même but et les mêmes raisonnements. Ils amènent de nouveau la crucifixion de Christ, de nouveau, comme nous allons le voir tout à l'heure, pour les mêmes motifs qu'ils l'avaient fait à l'époque. Ils ne peuvent rien trouver contre ça. Ils n'osent pas essayer de le défier. Ils savent que la preuve est là. Ils savent que la Bible le dit. Alors tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de blasphémer ça. C'est tout à fait exact. Donc, et tout ça pour les mêmes motifs. Et maintenant, en me basant là-dessus, j'adresse une sommation à cette génération pour avoir crucifié Jésus-Christ. Pour l'avoir crucifié, et elle en est coupable. Par la main impure, sordide et intéressée des dénominations, elle crucifie le prince de la vie qui voulait se présenter devant les gens. Vous dites, la même personne? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et elle s'est manifestée, la parole a été manifestée dans la chair, et ils ont condamné la chair et l'ont fait mourir, parce que la parole avait été manifestée. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la même parole, voyez? Et pour la même raison, ils cherchent à crucifier la parole. Maintenant, pour revenir à mon texte, pour pénétrer dans ce sujet que je veux traiter, là, les quatre mots. Expliquons là. Là, la ville la plus sainte du monde, Jérusalem. Là, la ville la plus religieuse du monde. Là, ils, le peuple le plus religieux du monde, à une fête religieuse, la fête de la Pâque. Là, l'endroit le plus religieux, la ville la plus religieuse, là, la plus grande de toutes les organisations qui étaient à la tête de toutes. Là, ils, les gens les plus religieux du monde entier, qui s'étaient rassemblés de partout dans le monde, ils crucifièrent la mort la plus honteuse dont on peut mettre à mort, dont une personne peut être mise à mort. Nu, ils lui ont ôté ses vêtements. Il a méprisé l'ignominie. Sur le crucifix, il y a un morceau d'étoffe qui l'enveloppe, mais il lui avait ôté ses vêtements. Ce qu'il y a de plus honteux, là, la ville religieuse la plus importante, ils, les gens les plus religieux, crucifièrent la mort la plus honteuse. Lui, la personne la plus précieuse. Si ça ne suffit pas pour condamner cette génération-ci, là, l'organisation la plus religieuse, les plus grandes églises, toutes rassemblées dans un lieu, ils, le peuple le plus religieux de toutes les races, les gens censés être les vrais adorateurs de Dieu, ils s'étaient rassemblés à leur fête religieuse la plus importante, la purification de la Pâque, où ils avaient été libérés, délivrés de l'esclavage. Et là, à ce moment-là, les gens les plus religieux, qui participaient à la fête la plus religieuse, dans le lieu le plus religieux, ils ont infligé au prince de la vie la chose la plus honteuse qui se puisse faire, de dévêtir un homme et de le pendre au bois. En effet, maudit est quiconque, c'est ce que disait la loi selon laquelle ils rendaient leur culte. Maudit est quiconque est pendu au bois, et il est devenu malédiction pour nous. Ils lui ont ôté ses vêtements, ils l'ont battu et se sont moqués de lui, le Dieu du ciel lui-même. Ils lui ont enlevé ses vêtements et ils l'ont cloué à une croix. Lui, là, ils le crucifièrent, lui, condamné à la peine capitale romaine. La mort la plus honteuse aujourd'hui, ce ne serait pas d'être fusillé. La mort la plus honteuse aujourd'hui, ce ne serait pas d'être renversé par une voiture et tué, d'être noyé sous les eaux, d'être brûlé au feu. Mais la mort la plus honteuse aujourd'hui, c'est la peine capitale prononcée publiquement. Alors que le monde entier vous condamne et vous déclare coupable. Et le monde entier a mis la main sur cet homme et l'a déclaré coupable alors qu'il était innocent. Et il est mort, condamné par l'ennemi, non pas par ses amis, non pas par ses lois, mais condamné à la crucifixion par l'ennemi. Le prince de la vie, la personne la plus précieuse qui ait jamais vécu ou qui vivra jamais. Jésus-Christ, lui, la personne la plus précieuse. Retenez bien ça maintenant, pendant que nous bâtissons notre plateforme autour de ça aujourd'hui. Pouvez-vous vous imaginer, en un lieu comme Jérusalem, où depuis 2500 ans ou plus, les gens, ou des centaines d'années, peut-être que ce n'était pas aussi long que ça, il se peut que c'ait été environ 800 ou 900 ans, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement combien, quel espace de temps s'était écoulé depuis le temps où Salomon avait construit le temple. J'imagine environ 800 ans, quelque chose comme ça. Et ils avaient attendu un Messie qui devait venir. Ils s'étaient rassemblés là pour le culte de la Pâque. Pensez un peu à ça maintenant. Ceux qui étaient à la tête de tous les pharisiens, sadducéens et quoi encore, dans un grand rassemblement pour adorer Dieu, le lieu le plus saint, Jérusalem, le temple du Seigneur, et le peuple du Seigneur s'est saisi du Seigneur lui-même et l'a crucifié, la peine capitale. Quelle affaire! Maintenant, ces quatre mots, ils le crucifièrent. Maintenant, on voit encore là comment est la Bible, voyez-vous. Ce ne sont que quatre mains, mais la Bible condense ces vérités. Bon, moi, il faut que j'entre dans de longs développements, que j'explique ce que j'avance. Mais la Bible n'a pas à expliquer quoi que ce soit. Elle est entièrement la vérité, tout simplement. Alors, la Bible n'a pas à expliquer quoi que ce soit. Elle n'a pas à expliquer ce qu'il en est, parce qu'elle est entièrement la vérité. Voici quatre mots de sa grande chaîne de vérité. Je vais essayer de les expliquer. Et à essayer de les expliquer clairement, on pourrait constituer une bibliothèque. Il n'y a aucun moyen pour moi d'expliquer ces quatre mots-là. Mais bon, avec l'aide de celui qui a fait en sorte que ce soit écrit, essayons d'expliquer ces quatre mots, de présenter ça de manière que les gens comprennent ce qu'il en est, ce que nous avons devant nous maintenant. Nous avons la première crucifixion devant nous, le lieu le plus saint, le peuple le plus religieux, la mort la plus honteuse, infligée à la personne la plus précieuse. Oh, c'est tellement contradictoire! Oh là là, que c'est honteux! Maintenant, prenons d'abord le premier mot. Là, parlons-en pendant quelques minutes, avant de porter l'accusation. Nous allons décortiquer ça et vous montrer ce qu'ils avaient fait. Ensuite, nous verrons si mon accusation est fondée ou pas. Là, Jérusalem, le lieu le plus simple, saint, parce que le temple était là. Le lieu le plus saint, parce que c'est là qu'était le temple, et des Juifs qui venaient de partout dans le monde se rassemblaient tous en ce lieu-là, un terrain de rencontre pour le culte. Le lieu le plus important qu'il y avait pour le culte, c'était à Jérusalem. Le temple était là. C'est que, il est écrit, tous doivent adorer à Jérusalem. Effectivement, parce que c'est un centre d'adoration. Et aujourd'hui, on les entend, l'un qui cherche à dire que, « Oh, nous venons à ces grandes conventions, là où les dénominations font ça. » Et puis, il y a la cérémonie d'inauguration à la cité du Vatican, et ses ordinations de pape, et ainsi de suite. Ils disent, « Nous devrions tous aller au terrain de camping des méthodistes, ou à la convention biblique des baptistes, ou nous devrions tous aller à Rome. » Là-bas, c'est le grand centre, comme ils disent, du christianisme. Pendant la dernière guerre, quand Rome est tombée, les soldats allemands, beaucoup d'entre vous, les frères, vous êtes au courant de ça, les soldats allemands s'étaient repliés là, dans la cité du Vatican, et ils tiraient sur les Américains, pendant que ceux-ci avançaient sur eux. Frère Funk et frère Robertson, et beaucoup d'entre vous, frère Biller, et beaucoup de ces frères-là qui ont fait cette guerre sont au courant. Et savez-vous quoi? Nous avons donné la consigne qu'ils ne devaient pas faire feu sur cette ville-là. Vous, les Américains, vous vous êtes tenus là et vous leur avez servi de cible. Mais à West, l'abbé de Westminster, en Angleterre, ça, pas de problème, vous pouviez faire feu là-dessus. Là-bas, c'était le lieu de rassemblement des protestants. Alors, on pouvait faire feu là-dessus sans problème. Mais faire feu sur le Vatican, ça, pas question. Parce que, comme le président Roosevelt, j'ai écouté son discours le soir où il l'a diffusé, et ça s'intitulait « Entretien au coin du feu ». Il a dit, quand Rome est tombée, il a dit, « Quel dommage que ce soit arrivé, parce que Rome est à la tête de tout le christianisme. » Pouvez-vous vous imaginer un protestant qui dit une chose pareille? Donc, le grand centre de la religion chrétienne, eh bien, là nous allons le situer comme si c'était Jérusalem, si vous le voulez bien. Si vous êtes d'accord qu'on fasse ça, disons que c'est à Jérusalem. La tête de tous ceux-là, des Sanhédrins, et des pharisiens, et des sadducéens, tous, ils montaient à Jérusalem. Ça, c'était vraiment le siège. Et dans le monde des organisations, il faut bien admettre que l'Église catholique romaine est la mère de toutes. Bien sûr qu'elle l'est. Et ça a commencé à la Pentecôte. Elles en sont arrivées là quand elles se sont organisées. Maintenant, nous, les protestants, nous ne sommes que les petites sœurs de cette Église-là. Alors, disons qu'aujourd'hui, ce serait là-bas, au Vatican, ou là-bas, à Jérusalem, comme ça l'était à cette époque-là, alors que tous devaient venir à Jérusalem pour œuvrer, adorer. Pourquoi le faisaient-ils à l'époque de Jésus? Pourquoi déclaraient-ils que tous devaient adorer à Jérusalem? c'est qu'il n'y a qu'un seul lieu où Dieu sera en communion avec l'homme. C'est sous le sang du sacrifice. C'est pour ça qu'il devait se rendre à Jérusalem. Dieu ne rencontrera jamais l'homme nulle part ailleurs que sous le sang. Quand vous rejetez le sang, alors votre lieu de rencontre avec Dieu a été supprimé. Dieu a pris sa première décision dans le jardin d'Éden. C'était que l'homme n'allait l'adorer que sous le sang versé du sacrifice. C'était le seul lieu où Dieu rencontrait l'homme en ce temps-là. Et c'est le seul lieu où Dieu ait jamais rencontré l'homme. Et c'est le seul lieu où il rencontre l'homme aujourd'hui. C'est sous le sang versé du sacrifice. Voyez? Peu m'importe que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, si vous pouvez oublier vos divergences, catholique romain ou quoi que vous soyez, et que vous venez sous le sang versé, Dieu nous rencontrera là, vous et moi. C'est là que nous pouvons tous nous rencontrer et être en communion sur le même terrain. Mais autrement, il ne vous rencontrera pas simplement parce que vous êtes méthodiste. Il ne vous rencontrera pas simplement parce que vous êtes pentecôtiste. Il vous rencontrera à une seule condition, que vous soyez sous le sang versé. Une fois vos péchés confessés et éliminés dans sa présence, alors par le sang, et le sang est toujours devant lui. Par conséquent, il ne peut vous voir qu'à travers ce sang versé. Et vous êtes blanc comme la neige, voyez-vous, une fois que vous avez confessé vos péchés. Autrement, vous n'y êtes pas. Vous ne pouvez pas être en communion. C'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose se produire dans les églises. Elles confessent qu'elles croient au sang, mais elles rejettent le plomb même qui donne accès au sang, la parole. Voyez, il n'y a qu'un seul moyen par lequel Dieu honorera cette parole. Vous n'honorerez jamais cette parole en venant dire « Je suis catholique romain ». J'exige que ceci soit fait. Vous ne pouvez pas faire ça, que vous soyez méthodiste, baptiste ou pentecôtiste. Vous ne pouvez pas faire ça. Le seul moyen pour vous d'y arriver, c'est avec la miséricorde de Dieu, par sa grâce, de venir à travers le sang versé de Jésus-Christ, dire « Seigneur, je réclame la promesse ». Voyez ? Et alors, si vous êtes réellement sous ce sang-là, Dieu est tenu d'accomplir cette parole. Mais il faut d'abord que vous soyez sous ce sang. Vous le voyez maintenant? Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire au miracle. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez pas croire au surnaturel. Ce n'est pas étonnant qu'ils condamnent ça. Le motif même pour lequel ils avaient condamné ça à l'époque, c'est le même motif pour lequel ils le condamnent aujourd'hui. Ils sont aussi coupables qu'on puisse l'être, car ce n'est que sous le sang versé. Et ceux qui oseraient, un simple frère qui, avec humilité, ose prendre Dieu aux mains, s'avancer là, confesser ses péchés, oublier tous ses dogmes et tout ça, et se tenir là, sous le sang, et y croire, alors les gens voudront le traiter de fanatique. Ils voudront l'étiqueter comme un, comme on dit, ce n'est pas un bon terme à employer en chair, mais c'est pour que vous compreniez. Il est un drôle d'oiseau. Après tout, nous sommes tous des drôles d'oiseaux, n'est-ce pas? Voyez-vous, le croyant est un drôle d'oiseau pour l'incroyant, et l'incroyant est un drôle d'oiseau pour le croyant. Alors, le drôle d'oiseau, c'est qui? Voyez, le cultivateur est un drôle d'oiseau pour l'homme d'affaires. L'homme d'affaires est un drôle d'oiseau pour le cultivateur. Voyez-vous? Alors, finalement, c'est qui? Je vais vous dire une chose, le salut est une affaire individuelle entre l'homme et Dieu seul. Chacun, individuellement, nous cherchons notre salut avec crainte et tremblement. Et je ne connais aucune autre base comme enseignant ce matin ou comme serviteur de Christ que de fonder cela sur la parole. Je ne peux pas poser cela sur aucune autre base. Ainsi donc, nous voyons que c'est uniquement sous le sang que Dieu rencontrait l'adorateur. Et c'est pourquoi il se rencontrait à Jérusalem. Et Christ est l'agneau auquel Dieu a pourvu comme sacrifice. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul lieu où Dieu rencontrera l'homme. C'est sous le sang de Jésus-Christ. En tout autre lieu, c'est condamné. Dieu n'écoutera jamais ça. Vous aurez beau produire des émotions de toutes sortes et des ismes de toutes sortes, et trembler, sauter, avoir du sang, du feu, de la fumée et tout le reste. Mais tant que la vie qui est là ne coïncide pas avec la parole et que Dieu ne s'identifie pas parfaitement avec cette vie-là, alors il est inutile d'essayer parce que vous n'êtes pas dans la course. Et Dieu ne la rencontrera jamais tant qu'elle n'aura pas été mise sous la protection du sang. C'est vrai. Alors, voyez-vous, dans l'Écriture, nous avons une Jérusalem. L'Église en a une. Elle est au ciel, une Jérusalem céleste, là où Dieu est Dieu. Et aujourd'hui, ça ne relève pas d'un credo ou de quelque chose dont nous nous efforçons de faire une Jérusalem. Nous voudrions, les méthodistes, ils voudraient faire du siège des méthodistes une Jérusalem. Les catholiques voudraient que ce soit Rome. Et les différents lieux où chacun, nous avons notre siège, nous voudrions faire de ça une Jérusalem. Mais la Bible dit que notre Jérusalem est d'en haut. C'est la mère de tous les croyants. Alors, et Christ est l'agneau pourvu par Dieu. Remarquez comme c'était opportun là, pour montrer que cette Jérusalem-là prenait fin. Quand? C'était en vigueur jusqu'à cette heure-là. Le sang de l'agneau, c'était bien, jusqu'à ce jour-là. Mais voilà qu'à la crucifixion, il y a un changement. L'ancien système s'est terminé. Là, il y en avait un nouveau. Et l'agneau était là comme sacrifice. L'agneau du sacrifice était sur les lieux. Ils étaient en train de condamner et de faire la chose même qu'ils devaient faire. C'est vrai. Que Dieu soit béni de voir cette merveilleuse lumière céleste en ce dernier jour. En effet, les églises font la même chose aujourd'hui. Jusqu'à l'heure où la religion organisée a été condamnée et où il a été prouvé qu'elle sacrifiait la parole de Christ, c'est à partir de ce moment-là que vient la parole, et la parole seule. Au jour de la crucifixion, c'est à partir de là que l'ancien agneau pascal a disparu et que Christ est devenu notre agneau. De même, le jour où la dénomination a crucifié la parole de Dieu et a accepté un credo au lieu de la parole, c'est ce jour-là que la parole a pris pleinement effet. C'est arrivé tout dernièrement. Remarquez, deuxièmement, premièrement, là, Jérusalem. Deuxièmement, ils, qui ça? Les Juifs, les adorateurs. Pensez-y, les adorateurs eux-mêmes étaient en train de tuer celui-là même qu'ils prétendaient adorer. Pouvez-vous imaginer une chose pareille? Eux, des hommes intelligents qui étaient sacrificateurs, qui avaient reçu une formation, qui avaient un doctorat, si bien que probablement qu'ils devaient être issus d'une certaine génération avant de, ou d'une certaine tribu, avant même de pouvoir être sacrificateurs. Il fallait qu'ils soient lévites. Leur père avait été sacrificateur. Leur grand-père avait été sacrificateur. Leur arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père avait été sacrificateur. Et il fallait qu'ils vivent une vie tellement consacrée qu'un seul iota contre eux et on les lapidait. Aucune miséricorde n'était accordée. Saint, assurément, mais une sainteté à laquelle ils étaient arrivés par eux-mêmes. Il fallait qu'ils agissent comme ça pour faire bonne figure devant leur Église. Au-dedans, Jésus a dit, « Vous êtes plein d'ossements de mort. » Oh, je pourrais vraiment porter une accusation en plein là. Des hommes qui savent que c'est la vérité, que cette parole est la vérité, et qui font des compromis sur elle pour faire bonne figure devant une organisation. Ah oui, j'ai le droit de les accuser, c'est vrai, en me fondant sur la parole de Dieu. Remarquez, ils, les adorateurs, les hommes qui avaient attendu la promesse, les hommes qui l'avaient attendu au fil des années et au fil des âges, et dont la seule activité était leur présence constante au séminaire. Mais ils avaient dispensé la parole conformément à l'enseignement du séminaire. Et ils avaient passé à côté de la vérité même qui s'y trouvait. Ils, les sacrificateurs, le clergé de ce jour-là, là, à leur siège, ils, le clergé de ce jour-là, ils tuaient le Dieu même, l'agneau même, celui-là même qu'ils prétendaient adorer, ils le tuaient. Et aujourd'hui, j'accuse cette bande de ministres ordonnés, C'est par leur credo et leur dénomination qu'ils crucifient aux yeux des gens le Dieu même qu'ils prétendent aimer et servir. J'accuse ces ministres au nom du Seigneur Jésus en raison de leur doctrine, car ils déclarent que les jours des miracles sont passés et que le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ ne suffit pas et n'est pas bon. En raison de chacune de ces paroles auxquelles ils ont substitué des credos, je les accuse, ils sont coupables et le sang de Jésus-Christ est sur leurs mains. Pour avoir crucifié le Seigneur Jésus de nouveau une seconde fois, ils crucifient Christ aux yeux du public. Ils retirent aux gens la chose qu'ils sont censés leur donner. Et ils y ont substitué quelque chose d'autre, le credo d'une église, pour jouir de popularité. Là, ils, ceux qui auraient dû savoir ce qu'il en était, si quelqu'un aurait dû savoir ce qu'il en était, c'est bien ces ministres. Si quelqu'un devrait savoir ce qu'il en est, c'est bien le clergé d'aujourd'hui. Si quelqu'un devrait savoir, c'est bien les évêques et les archevêques et les ministres et les docteurs en théologie. Eux devraient savoir ce qu'il en est. Mais pourquoi ne savent-ils pas? Quelle contradiction! Nous sommes en présence de quoi ici, si ce n'est une contradiction? Ils prétendent adorer Dieu et ils tuent le prince de la vie. Ils le crucifièrent. Et ici, ils, de nouveau, ils font la même chose. Car il est la parole. C'est ce qu'il est, uniquement un reflet de la parole. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui, un reflet de la parole. Il essaye de trouver quelqu'un en qui il pourra se refléter. Et ces gens tiennent l'assemblée éloignée de Dieu. Et s'il y a quelque chose qui se produit et que l'assemblée en parle, alors ils condamnent ça du haut de l'estrade, du haut de la chair, et ils disent, c'est du fanatisme, tenez-vous loin de ça. Et c'est ainsi qu'ils crucifient Jésus-Christ en 1963. Et ils sont tout aussi coupables que ces gars-là l'étaient à là en ce jour-là. C'est une déclaration terrible, mais c'est la vérité. En raison, c'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Et en raison de ces choses, en raison du fait qu'ils crucifient Christ, en raison du fait que la parole, ils la retirent aux gens, c'est exactement ce qu'ils avaient fait là-bas. La parole même que Dieu reflétait dans son propre Fils pour prouver que c'était bien la parole. Et celui qu'il prétendait aimer, le Jéhovah qui s'était manifesté selon les Écritures, qui avait fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait, exactement ce que Dieu avait dit qu'il ferait, et qui avait reflété cela devant eux, pour l'amour de leur groupe, de leurs églises, et de ce genre de choses, ils ont condamné le prince de la vie. Et moi, je condamne ce même groupe-là aujourd'hui, et je les accuse. Ils sont coupables devant Dieu, par la parole de Dieu, de faire la même chose. Cette génération est mise en accusation. Souvenez-vous, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment ont-ils pu le mettre en accusation? C'est parce que leur credo refusait de l'accepter. Mais au fond de leur cœur, ils savaient ce qu'il en était. Nicodème, au chapitre 3 de Jean, ne l'a-t-il pas bien exprimé? Rabbi, nous les pharisiens, les prédicateurs, les docteurs, nous savons que tu es un docteur envoyé de Dieu. Car personne ne peut faire ces choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Voyez, ils en ont rendu témoignage publiquement par la bouche de l'un de leurs hommes de renom. Et dans la commotion, à cause de leur credo, ils ont crucifié Christ. Et aujourd'hui, il n'y a pas un seul lecteur qui ne puisse lire Actes 2.38. Autant que moi, je peux le lire. Et tous les autres passages, autant que moi, je peux les lire. Mais à cause de leur credo et à cause de leur carte de la dénomination qu'ils ont dans leur poche, leur marque de la bête qu'ils portent sur eux, leur carte de l'association, et en acceptant ces choses, ils crucifient de nouveau, pour leur part, Jésus-Christ. Ils le crucifient devant le public et ils blasphèment le Dieu même qui avait promis de faire ceci, entraînant toute la race dans la damnation. Donc là, ils, non pas le pécheur, Il, c'est-à-dire l'Église de ce jour-là. Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Pas vrai? Ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Maintenant, ils portent un jugement défavorable sur la parole qui œuvre à travers l'homme. Voyez-vous, ils font tout simplement l'inverse. Alors que ce qui est dans la personne, ce Saint-Esprit qui œuvre à travers elle, c'est la confirmation de Dieu. Comment ont-ils su qu'il était le Christ? C'est parce que ses œuvres prouvaient ce qu'il était. Il a dit, « Lequel d'entre vous peut me déclarer coupable de péché si je n'ai pas fait exactement ce que l'Écriture avait dit que je ferais? Et lequel? Que quelqu'un vienne me dire en quoi j'ai échoué si je n'ai pas présenté tous les signes qui démontrent que je suis le Messie, que je suis celui-là même dont vous promettiez la venue. » Ils ont dit, « Eh bien, nous avons Moïse, nous croyons Moïse. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Si vous, Moïse a vu mon jour et il a désiré de vivre en ce jour. Moïse l'a vu de loin et les prophètes aussi. Et vous y voilà, vous vivez tout près de cela et vous condamnez. Hypocrite, il a dit, vous savez discerner l'aspect des cieux, mais le signe du temps, vous ne pouvez le discerner. Voilà, c'est ça, le signe du temps. Comment l'ont-ils étiqueté? Comme un fanatique, un fou. Oui, ils ont porté un jugement défavorable sur l'homme qui était la parole. Il était la parole. Jean chapitre 1 le prouve. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il était la parole vivante de Dieu, parce qu'il exprimait Dieu à travers lui. Il était complètement abandonné à la parole de Dieu, à tel point que lui et la parole, c'était une seule et même chose. Et c'est exactement ce que l'Église devrait être aujourd'hui, avec la parole de Dieu, une seule et même chose. Comment pouvez-vous être une partie de cette parole alors que vous la niez pratiquement toute? Et la raison pour laquelle ça se passe comme ça, ce n'est pas à cause des gens. Et c'est pour ça, je pense, que Dieu m'a parlé du fait d'appeler son peuple des Ricky et des Riquetta. C'est à cause de ces dénominations égoïstes, c'est à cause d'elles que les gens mènent le genre de vie qu'ils mènent. Ils ont crucifié la vérité, et les gens appellent cela un blasphème, ou plutôt, ils en font le blasphème. Ils appellent cela du fanatisme et tout, sans savoir qu'ils sont en train de blasphémer le Dieu même qu'ils veulent servir en allant à l'église. Par conséquent, j'accuse cette bande de membres du clergé aujourd'hui. J'accuse cette génération au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu. Vous le crucifiez de nouveau. Remarquez, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu confirmée dans un homme. Comparez les deux calvaires et l'accusation de chacun. Souvenez-vous, parce qu'il se fait Dieu, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Quel chef d'accusation ont-ils trouvé quand ils ont tenu conseil ce matin-là, quand ils ont crucifié Jésus? C'est qu'il se faisait Dieu. Il était Dieu. Et qu'il violait le sabbat, et il était maître du sabbat. Ils l'ont condamné parce qu'il se faisait Dieu. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Nos souverains sacrificateurs, s'il y a quoi que ce soit qui doit venir, c'est par nos sacrificateurs que ça viendra. Maintenant, comparez ça au calvaire d'aujourd'hui. Alors que Dieu, qu'il avait plu au Père, à Dieu, à l'Esprit, de susciter son propre fils. Il a couvert Marie de son ombre par le Saint-Esprit et il a engendré un corps qui pourrait le servir, exécuter son dessein. Alors que Dieu était en Christ, la plénitude de la divinité corporellement était en lui, reflétant ce que Dieu était devant les gens, faisant connaître au monde entier ce que Dieu voulait de chaque individu, qu'il soit un fils, une fille. Il s'est servi d'un seul homme pour accomplir cela. Mais parce qu'ils n'étaient pas entrés dans les rangs de leur organisation, ils l'ont condamné et l'ont crucifié. Maintenant, comparez ce calvaire-là à aujourd'hui. À cause des préjugés de leurs organisations, à cause de l'indifférence qui règne parmi les érudits, qui devraient connaître la parole et le plan de Dieu. À cause de ces choses, alors Dieu se sert d'un petit groupe de gens à travers lesquels il peut œuvrer quelque part et se refléter. Des gens qui vont s'humilier devant la parole. Et il ne peut pas dire qu'il n'en est pas ainsi. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas fait ces choses. Car leur assemblée en avait été témoin. C'était devant eux. Ils ne pouvaient pas le nier. Ils ne pouvaient pas nier ces affirmations. Parce que la parole même qu'ils déclaraient croire, c'était elle qui avait prouvé qu'il était bien cela. En effet, Dieu avait pris la parole qui devait correspondre au Messie et l'avait démontré à travers un homme. Alors il fallait qu'ils se débarrassent de lui. Le seul moyen pour eux de pouvoir continuer, c'était de se débarrasser du Messie. Et ils l'ont fait parce qu'ils étaient aveugles et qu'ils étaient dans l'ignorance malgré leur instruction. Ils étaient futés, intelligents. Je parle de l'intelligence du monde. Comme nous avons fait la comparaison l'autre soir, quand la lumière a touché le jeune homme riche, regardez ce qu'il a fait. Il a rejeté un homme intelligent. Paul, un autre homme intelligent. La lumière l'a touché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Il a oublié tout ce qu'il avait connu jusque-là pour pouvoir connaître Christ. C'est ce qui a rendu sa vie digne de l'Évangile. Le message de dimanche soir passé, la voilà aujourd'hui. Elle va peut-être toucher un petit homme qui s'en était allé. Il avait un appel de Dieu, c'est ce qu'il ressentait. Il s'en était allé au séminaire et il y avait appris un credo. Il doit vivre d'après ce credo-là. Sinon, il devra céder sa carte de l'association. Et s'il le fait, c'est une tâche à sa réputation. Plus personne ne voudra de lui, parce qu'à un moment donné, il faisait partie de quelque chose d'autre, mais que maintenant, il n'en fait plus partie. Il pense qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez cet homme. Et ils ne veulent pas de lui dans leur assemblée. Alors que l'assemblée, tout ce qu'elle veut voir comme signe, c'est s'il croit ce que eux, ils croient. S'il a sa carte, qu'il est méthodiste, s'il est une carte, s'il fait partie d'une autre assemblée, ou qu'il est unitaire, ou trinitaire, ou quoi que ce soit, de l'Église de Dieu, ou dans les rangs des pentecôtistes, ou tous ces rangs-là, s'il porte une carte, il considère que le siège de l'organisation l'a inspecté. On a mesuré son état mental, on lui a fait passer un test psychiatrique, on a vérifié si son quotient intellectuel était assez élevé pour parler devant eux. Sinon, ils le refusent, c'est vrai. Mais voyez-vous, l'Assemblée devrait chercher à voir la main du Seigneur, voir si Dieu lui a donné son ordination ou pas. Voilà ce que nous devrions regarder. Mais aujourd'hui, ils crucifient de nouveau le Fils de Dieu. Quand un homme a la capacité que, par la grâce de Dieu, il a été appelé de Dieu, de laisser Dieu se refléter en lui. « Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais », a-t-il dit. Remarquez, quel jour que celui où nous vivons. Ils considèrent ce même calvaire. Nous pouvons le faire ce matin, et pour le même motif. Or, ils savaient que c'était la vérité, mais à cause de la jalousie, des préjugés. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors vous, par qui les chassez-vous? Qu'ils soient eux-mêmes vos juges, voyez-vous? Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Maintenant, comme vous les avez entendus dire, pouvez-vous prouver que c'est le doigt de Dieu? J'aurais aimé les entendre lui poser cette question-là. Ils étaient trop futés pour ça. Remarquez, parce qu'il se faisait Dieu, et il était Dieu, et nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais maintenant, voilà que le même vieux cri se fait entendre. Cette Bible a été écrite par des hommes, qu'ils disent. Nous ne sommes pas obligés d'aligner notre vie là-dessus. Ça, c'est celle de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Hier, je parlais à un homme qui disait, « Eh bien, c'est peut-être un homme qui a écrit la Bible. » J'ai dit, « Oui, c'est ça. Son nom, nous savons que c'est Dieu. » Elles ont été écrites dans un intervalle de 4000 ans, presque. Les Écritures l'ont été, à partir de l'époque reculée de Job, jusqu'à celle du Nouveau Testament. Et elles ont été écrites par des centaines, et à des centaines d'années d'intervalle. Et elles ont été écrites par différents hommes, des hommes qui ne se connaissaient pas, écrites dans différentes régions du pays. Et pas une seule parole ne condamne l'autre. Je défie n'importe qui de venir se mettre sous le sang de Jésus-Christ et réclamer toute promesse qui s'y trouve. Dieu est tenu de l'accomplir, mais ils ne le feront pas. Ils vont venir là dire, « Oh Seigneur, je voudrais faire quelque chose. Donne-moi un grand don. Alléluia Seigneur, gloire à Dieu. Je crois que je l'ai reçu. Alléluia. » Ça ne marchera jamais. Peut-être que vous produirez beaucoup de psychologie, mais ça ne marchera pas. Dieu doit accepter cette repentance. C'est Dieu qui doit faire ça. Nous pourrions dire beaucoup de choses là-dessus, mais j'espère que vous comprenez. Regardez, mais maintenant, ils ne veulent pas que la parole règne sur eux. Je dis, tous, autant que vous êtes, faites demi-tour. Votre baptême est faux. Vous êtes baptisé dans l'Église catholique. Vous êtes qui, vous, pour venir nous dire ça? Ce n'est pas moi, c'est la parole. Mais je vais vous dire, nous, nous croyons, peu m'importe ce que vous croyez, ça, c'est ce que dit la Bible. Mais nous ne sommes pas obligés d'aligner notre vie là-dessus. Oui, vous êtes obligés de le faire, sinon le jugement de cette Bible est sur vous. En effet, quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou y ajoutera une seule parole, à celui-là sera retranché sa part du livre de vie. Qu'il soit ministre, membre du clergé, ou qui qu'il soit, vous devez vous soumettre à l'autorité de cette parole, car elle est Dieu. La Bible dit qu'elle est Dieu. Nous ne voulons pas qu'elle règne sur nous. Ils optent pour leur credo, leur dénomination, et leur petite futilité auxquelles ils croient, et qui ont été adoptées par des conseils d'hommes. Ils optent pour ça, plutôt que d'opter pour la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au jour de la première crucifixion, ils ont accepté un Barabbas, un meurtrier. Au lieu d'accepter le Fils de Dieu, et aujourd'hui, ils acceptent la parole d'un homme, ce qui est un mensonge et le chemin de la mort. Ils refusent d'accepter le chemin de la vie, la parole de Dieu. Je condamne cette génération, je l'accuse par la parole du Seigneur. Ils ont tort. Ils sont coupables de crucifixion ou de chercher à crucifier l'Esprit. Partout, ils réclament un réveil. Comment allez-vous faire pour avoir un réveil alors que la parole elle-même ne peut pas agir dans les gens? J'aimerais bien que quelqu'un me donne une réponse à ça. Comment est-ce possible alors que vous niez le réveil lui-même? Le prophète a bien parlé d'eux, des formes extérieures de piété. Les formes extérieures qu'ils adoptaient à cette époque-là niaient la parole de vie. Les formes extérieures qu'ils adoptent aujourd'hui nient la chose qui peut leur apporter un réveil. Les credos et les formes extérieures qu'ils adoptent. Oui, monsieur. Ils optent pour la dénomination et pour leur credo plutôt que d'opter pour la parole. Et c'est ce qui crucifie sa parole et annule l'effet de sa parole sur les gens. Quand ils voient la parole de Dieu de façon si vivante se mettre en place, alors que Dieu avait fait la promesse qu'il ferait ceci, et voici qu'il le fait. Et eux, ils se moquent de ça, et ils s'en éloignent. C'est un blasphème. Et ils cherchent à crucifier la parole elle-même. Pourquoi est-ce qu'ils la crucifient? Ils ne peuvent pas crucifier la parole, pas plus qu'ils n'ont pu crucifier Dieu. Ils ont pu crucifier le corps dans lequel habitait Dieu, le Fils de Dieu. Ça, ils ont pu le crucifier, mais ils ne peuvent pas crucifier Dieu. Il fallait qu'il soit crucifié cette fois-là, parce qu'il était le sacrifice, ce afin de faire entrer beaucoup de fils qui avaient été prédestinés à la vie éternelle. Il fallait qu'il le fasse en ce temps-là, mais ils ne peuvent pas le faire maintenant. Ils ne peuvent pas le faire, car la parole elle-même continuera à vivre. Mais ils, qu'est-ce qu'ils font? Comment se forment-ils? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire alors, prédicateur? Comment est-ce que vous bâtissez votre plateforme ici pour dire qu'ils le crucifient alors? Ils crucifient les effets de l'Évangile sur les gens par leur credo. Voilà la crucifixion. C'est que les gens sont assis là, dans ces grandes morgues qu'ils appellent des églises, des dénominations, et ils tracent une ligne de démarcation par leur credo. Et ça, la parole de Dieu ne peut avoir aucun effet sur eux, parce qu'ils condamnent les choses mêmes dont Christ avait dit qu'elles se produiraient. C'est qu'elles n'arrivent pas en conformité avec leur credo. Jésus non plus, il n'est pas venu en conformité avec la conception qu'il s'était faite de sa venue. Il est venu comme Dieu l'a envoyé, et il est venu d'une manière tout à fait conforme à la parole. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit qu'il l'avait caché aux yeux des sages et des intelligents, et qu'il l'avait révélé aux petits-enfants qui seraient disposés à apprendre. Est-ce que vous comprenez? Oh, ils ont crucifié les effets de la parole. J'ai une série de passages de l'Écriture ici. Je pourrais peut-être juste en citer deux ou trois. Ils la crucifient. Vous dites, comment est-ce qu'ils crucifient la parole? Alors que Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8. Eux, ils disent, d'une certaine manière, il l'est. Voyez? Bien. Et Jésus a dit, le dernier commandement qu'il a donné à l'Église, « Allez par tout le monde. » Marc 16. « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Par tout le monde, à toute la création. On n'en a pas encore atteint la moitié. Et il y a des millions de gens qui meurent chaque année, qui n'ont jamais même entendu le nom de Jésus. Donc, c'est toujours la consigne générale. C'est toujours un commandement de Dieu. Par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et eux, ils disent, ça s'appliquait à cette génération-là. Ils annulent ainsi l'effet du commandement de Dieu. Ils crucifient l'effet que doit avoir la parole sur les gens. Amen. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, alors qu'il avait les clés du royaume, Jésus venait de les lui donner. Tout ce que tu diras ici, je le dirai là-haut. Et le jour de la Pentecôte, ils ont demandé ce qu'ils devaient faire pour recevoir le Saint-Esprit, dont ils se réjouissaient tant. Ils observaient ces autres personnes qui avaient un comportement qu'eux auraient qualifié de ridicule. Ils titubaient, ils sautaient, ils tombaient, et ils se comportaient comme s'ils étaient ivres. Et les gens disaient, ils sont pleins de vin doux. Mais un homme s'est levé, il s'appelait Pierre, c'est lui qui avait les clés du royaume. Et il a dit, ces gens ne sont pas ivres, acte 2, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été annoncé, voyez-vous, un retour tout droit à la parole de nouveau. Ce qui montre que l'esprit est toujours parole, et que la parole est toujours esprit, la parole de Dieu. Alors, comme l'a dit le prophète Joël, Joël 2.38, « Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Écoutez ce prophète qui se tenait là. Regardez-le, sans peur, il se tient là devant cette bande de gens, et il les condamne, il les accuse. Il a dit, « C'est ici l'Écriture, c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Sur mes servantes et sur ma servante, je répondrai de mon esprit. Je ferai paraître des signes en haut dans les cieux et sur la terre, du feu et des colonnes de fumée et de vapeur. Il l'a prouvé par la parole que c'était bien la parole. Et ils ont rigolé et s'en sont moqués. Et ils ont été jugés. La ville a été brûlée. Et ils ont mangé les enfants les uns des autres. Et aujourd'hui, ils sont un peuple dispersé partout dans le monde. Ce qui montre que le Saint-Esprit est encore la parole de Dieu. Il apporte cette parole, il la fait vivre. Jésus-Christ était la personne, l'homme, Dieu. Alléluia! Il était la manifestation de Dieu. Il était Dieu sous une forme corporelle pour refléter la parole de Dieu qui s'appliquait à cet âge-là. Pour faire voir à cet âge-là la promesse de Dieu qui s'appliquait à cet âge-là. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu sur la parole écrite qui essaie de trouver quelqu'un par qui il pourra se refléter à cet âge-ci pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jean 14-12, vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, il cherche constamment à se frayer un chemin pour arriver à se refléter. Eux, ils n'ont pas pu le faire. Ces gens pensaient tellement de bien de leur dénomination, de leur petit nid qu'ils avaient et tout, ce qu'ils appelaient leurs églises, qu'ils ne voulaient pas écouter ça. Et c'est aussi ce qu'ils font aujourd'hui, la même chose. Ils crucifient de nouveau. Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, « Vous qui séjournez à Jérusalem, en Judée, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Si vous restez tranquille, je vais vous montrer ce qu'il en est. » Et il s'est mis à le leur expliquer. Alors, ils ont eu le cœur vivement touché après avoir entendu cela. Ils ont dit, « Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Que pouvons-nous faire pour recevoir ceci? Nous sommes convaincus que ta parole est vraie. » Il a dit, « Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car ceci est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voici ce qu'ils doivent faire, se repentir, être baptisés au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église catholique romaine a adopté Père, Fils et Saint-Esprit pour remplacer cela. Au lieu de cela, une communion, tirer la langue, avaler l'hostie, le prêtre va boire le vin, et ensemble, vous faites un. La communion, au lieu que ce soit le Saint-Esprit, ils appellent ça la Sainte Eucharistie. Et Père, Fils, Saint-Esprit, un baptême trinitaire, alors qu'il n'en est même pas fait mention dans la Bible. Le nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on montre ça à cette génération perverse, comme Pierre l'a dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Quand on leur montre ce qu'il en est, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de ça et ils disent, ce n'est pas comme ça que notre Église l'enseigne. Alors vous êtes coupables. Vous êtes coupable de la crucifixion de Jésus-Christ parce que vous retirez aux gens la puissance de Dieu. Vous crucifiez la parole elle-même à leurs yeux et vous vous condamnez vous-même ainsi que votre assemblée. Vous les conduisez dans un piège mortel. Comme je le disais de ce ministre dimanche passé, de Martin Luther King, qui est là-bas avec ses précieuses gens, en train de les conduire directement dans un piège mortel. Oh, si seulement quelqu'un pouvait parler à cet homme, si seulement je le pouvais, juste à cause d'un petit soulèvement au sujet de la proposition des écoles, voyez-vous, ou quelques... Qu'est-ce que ça change, ça? Miséricorde, si les gens n'ont pas assez de cœur pour côtoyer un homme à cause de sa couleur, ils sont condamnés et morts de toute façon. Le pays leur donne ce droit-là. Ne luttez pas contre ça. Non. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un déclarait que tous les Irlandais, ou quelqu'un comme ça, tous les Allemands ou quelqu'un d'autre qui n'ont pas le droit de côtoyer les autres. Ça ne troublerait pas du tout les chrétiens. Ils continueraient à avancer quand même. Et cet homme-là est chrétien. Lui qui est ministre. Il ne devrait pas pousser ces gens-là à se révolter contre ça. Ils vont entraîner des millions de personnes dans la mort. Ça va déclencher un autre mouvement révolutionnaire. Et c'est honteux de faire une chose pareille. Et c'est la même chose qui se passe ici même. Exactement la même chose. De nouveau, c'est vrai, voyez. Les gens, oh, si seulement ils voulaient considérer la vérité et voir quelle est la vérité. Notre Église ne croit pas ça. Nous avons une autre manière de faire. Eh bien, ce n'est pas la bonne manière de faire. Ce n'est pas la chose à faire. Il a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Or, ils ne veulent pas le faire. Oh, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, ça, ce n'est qu'un point. Il y en a des centaines. Nous allons y venir, peut-être, faire le plus vite possible. Alors, maintenant, la deuxième crucifixion. Si un homme accepte Père, Fils, Saint-Esprit, un credo au lieu de la parole, des titres au lieu du nom, qu'est-ce qu'il fait aux gens? Il crucifie les effets de la parole sur les gens. Quand il dit que Marc 16, c'était seulement pour cette génération-là, alors que Dieu lui-même a dit, là, Jésus qui leur parlait, il a dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux. » Jusqu'où? Toute nation, tout credo, toute langue, toute race, tout peuple, le même Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et quand un homme essaye de retrancher ça de la Bible, il crucifie les effets de l'Évangile sur l'assemblée. Donc, je vous accuse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes coupables du meurtre du Seigneur. L'Église l'a haï. Pourquoi? Il était leur Dieu lui-même. Ils l'ont haï et ils ont refusé de l'accepter comme leur Messie. Non, monsieur, ils ne voulaient pas d'un Messie comme celui-là. Et aujourd'hui, l'Église fait la même chose. Elle nie la parole. Ils n'en veulent pas. Elle contredit ce qu'on leur a enseigné à croire dans leur credo. Et la parole, c'est le Messie. Vous croyez ça? Eh bien, le reflet de la parole, alors, qu'est-ce que c'est? C'est de refléter un Messie, qui est le Saint-Esprit au milieu de nous. Il se reflète, il cherche à le faire, partout où il peut trouver une lampe à travers laquelle il pourra regarder, qui n'est pas tout enfumée par des credos et tout, à travers laquelle il pourra émettre la lumière. Souvenez-vous, elles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Elles en ont nettoyé les verres, mais il était trop tard. Alors que ton homme voit les luthériens, les presbytériens, les méthodistes qui essayent en ces derniers jours de venir recevoir le Saint-Esprit, eh bien, vous savez bien qu'ils ne le reçoivent pas. Bon, il se pourrait qu'ils parlent en langue et qu'ils sautent en l'air, mais regardez bien ce qui se passe. Absolument, c'est un signe du temps qui montre que c'est terminé pour elle. Nous sommes à la fin. D'une minute à l'autre, là, l'Église pourrait entendre la sommation. Monte ici. Amen. Tout est bien en place, très exactement. Le Saint-Esprit est ici. Il présente Jésus-Christ comme une réalité à travers ceux en qui il peut œuvrer. Il démontre ce qu'il est, il descend, il se fait prendre en photo, Il le démontre, il fait prendre ça, fait parler de ça par la science et tout. Il le prouve que c'est exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il fait exactement les choses qu'il avait dit qu'il ferait, le tout conforme à l'Écriture. Or, il ne s'agit pas d'un credo, ni d'une idée qu'un homme aurait eue dans son emballement, beaucoup de sang, de feu, de fumée, et ce genre de choses, mais d'un signe du Messie, une preuve conforme à l'Écriture. On a beaucoup d'imitations et d'imitateurs et tout, mais tout ce que ça fait, c'est permettre à la vraie parole de briller de son plus bel éclat. C'est vrai. Des gens qui sont spirituels, qui savent discerner le vrai du faux, voyez, on le renie. Ils ont renié leur Messie. Nous ne voulions pas de lui. Et ils font la même chose aujourd'hui. Eh bien, s'il faut que j'aille là-bas, que j'agisse comme cette bande de gens-là, je n'en veux pas du tout. Très bien. Alors, vous ne l'avez pas du tout. C'est tout, voyez. C'est la même chose maintenant. Bien qu'il ait été très bien identifié, ils n'ont pas voulu de lui. Ils l'ont haï. Pourquoi donc? On appelait leur pasteur une bande de serpents. Il a dit, bande de murailles blanchies. Vous n'êtes rien d'autre qu'un cimetière. Au dehors, vous présentez le raffinement des soutanes et des cols tournés vers l'arrière. Mais au-dedans, ce sont des ossements de mort. Voyez. Il n'a pas pris de gants. C'était un petit Galiléen tout simple, le fils d'un charpentier. Mais il n'a pas pris de gants. Il leur a dit ce qu'il en était. « Ne prétendez pas !» a dit Jean, son précurseur. Il a dit, « En voilà un autre qui n'a pas pris de gants. » Il a dit, « Ne venez pas dire que vous avez Abraham pour père. De ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Oui, monsieur, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits est coupé et jeté au feu. Oui, monsieur, Dieu est sévère, il est ferme et inflexible quant à sa parole. Oui, monsieur, remarquez, Jésus qui avait été prouvé par l'Écriture. Jésus avait été identifié par Dieu d'un bout à l'autre des Écritures. Comme étant le Messie. Pas vrai? Nous allons voir l'accusation portée par Pierre dans quelques minutes. Et vous allez voir si c'est le cas, oui ou non. Il avait été parfaitement bien identifié comme étant Dieu manifesté dans un homme appelé le Fils de Dieu. C'est vrai. Bien qu'il ait été très bien identifié et qu'il ait confirmé la parole promise qu'il était bien le Messie, Moïse avait dit, ce Messie, quand il viendra, il sera prophète, et toutes ces choses qui allaient se produire. La petite femme qui était au puits, dans cet état de souillure totale, qu'est-ce que ça symbolisait? Que Dieu, en ses derniers jours, choisirait des bannis. Vous vous souvenez, hier soir, aux noces, ou l'autre fois où j'ai prêché ici, au souper des noces, il disait, ce qu'il disait là, j'ai donné un grand festin et tous ces hommes, je les avais conviés, mais chacun avait une excuse. Je ne peux pas, parce que ça démolirait nos credos. Je ne peux pas y aller, parce que j'ai épousé une femme, elle ne veut pas que j'y aille. Oh, je me suis marié avec une église ici. Ma mère était méthodiste, ou baptiste, ou catholique, ou prote. Je ne peux vraiment pas soutenir ça. Il a dit, et vous n'y viendrez pas, et vous ne goûterez pas de mon souper. Mais va là-bas, et contrains les prostituées, les impudiques, les ivrognes, et tous ceux que tu trouveras. Fais-les entrer, et je les remettrai d'aplomb. J'ai préparé mon souper, et ceux que j'avais conviés, j'ai dressé la table, et quelqu'un y sera. Il n'était pas venu. Il condamnait les Juifs de cette époque-là. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Je fais partie des presbytériens. Je ne peux pas. Je suis méthodiste, luthérien. Je suis unitaire, je suis binitaire, je suis ceci. Je ne peux pas. Voilà. Alors, vous n'y serez pas. C'est exactement ce qu'il a dit. Bien. Très bien confirmé comme étant le Messie. Très bien confirmé comme étant la parole promise, le Dieu qui avait promis la parole, que c'est ce que le Messie allait être. Voilà qu'il est venu et qu'il s'est tenu là parfaitement. Il leur a dit, « Maintenant, en quoi ai-je échoué? Si vous ne pouvez pas me croire comme homme, croyez aux œuvres que je fais, car ce sont elles qui indiquent qui je suis. Ce sont elles qui indiquent que je suis le Messie. » Vous ne voulez pas me croire parce que vous pensez que Joseph là-bas et que je suis né là-bas dans cette petite cabane et que mon père nourricier ici, c'est un charpentier là-bas et vous, quand il est arrivé en Galilée là-bas, il disait, hé, qui est cet homme? Qui est celui-ci? Eh bien, cet homme, n'est-ce pas? Joss et les autres, là, ne sont-ils pas ses frères? Ses sœurs ne sont-elles pas avec nous? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et son père Joseph? Où est-ce que vous êtes allé chercher un gars comme ça? De quelle école sort-il? Il n'a pas de carte d'association? Il n'a pas de référence? Où est-ce qu'un gars comme ça? Mais enfin, où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Et la Bible dit que c'était pour lui, une occasion de chute. Il a dit qu'il ne put faire beaucoup de miracles. Il leur a tourné le dos et s'est éloigné d'eux. Il a dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est parmi ses parents. Voyez-vous, dans sa région, observez, ou dans sa patrie, le voilà, très bien confirmé comme étant le Messie. Il ne s'attribuait aucun mérite personnel. Il disait, je ne peux rien faire, mais seulement ce que je vois faire au Père. Et il les a mis au défi de se renseigner pour savoir si c'était bien le Messie. Voyez, cette petite femme de mauvaise vie, elle l'a reconnue. Elle n'était pas endoctrinée. La lampe n'était pas côté moralité, elle avait tort, évidemment. Personne n'aurait pu approuver ça. Les lois de Dieu condamnent ça. Côté moralité, elle avait tort. Mais elle, voyez-vous, Dieu ne vous juge pas sur ce que vous êtes. Il juge non pas votre grandeur ou votre petitesse. Il juge votre cœur, ce que vous désirez être. Et toutes ces choses-là, elle n'en voulait pas. Alors, quand ceci a brillé devant elle, c'est ça qu'elle voulait. Peu importe ce qu'elle était à ce moment-là, elle était prête à venir. Voyez, Dieu juge le cœur. L'homme juge sur l'apparence extérieure. Dieu regarde au cœur. Peu importe ce qu'elle était, cette lumière a brillé, et avec ça, c'était réglé. Elle a saisi l'essence de la vie éternelle. Oh là là, quelle richesse pour moi. Voyez-vous, de voir et de savoir que c'est la vérité. Je m'en tiendrai à ceci. Je vais, le Dieu du ciel se lèvera, et ma voix sera sur la bande magnétique du grand temps de Dieu là-bas, et elle condamnera cette génération au dernier jour. En effet, elle est sur bande magnétique, et puis là, elle sera sur la bande éternelle, c'est vrai. Elle condamnera cette génération de prédicateurs qui ont une forme extérieure de piété, mais qui renient la puissance de la parole et sa manifestation, alors que c'est très bien identifié qu'il est toujours Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je les accuse par la parole de Dieu. Je dois en venir à une autre promesse en vitesse, parce qu'il ne nous reste plus qu'une quinzaine de minutes.
Là, ils.
Quoi? Oh là là, le calvaire, et ils le crucifièrent. Troisièmement, ils l'ont crucifié en ne reconnaissant pas la parole promise de Dieu qui avait été manifestée. Pourquoi ont-ils crucifié cet homme-là? Pouvez-vous vous imaginer un peu? Permettez-moi de revenir là-dessus un instant. Quel motif ces gens-là pouvaient-ils bien avoir de crucifier un homme comme celui-là? Comme Marie, comme ce livre que j'ai lu une fois qui s'intitulait « Le prince de la maison de David ». Il a été écrit par Ingraham, le docteur Ingraham. Un livre formidable. C'est un récit dramatique dans lequel on prétend qu'il y aurait une part de vérité. Il s'agirait d'un manuscrit ancien provenant d'une femme qui se nommait Adina, dont elle était venue en Palestine depuis l'Égypte, le Caire, je crois, pour poursuivre ses études. Elle se trouvait là-bas à l'époque de Christ. Et elle aurait écrit des lettres à son père. Il serait bon que vous le ramassiez quelque part et que vous le lisiez. C'est vraiment bien. Le prince de la maison de David, le même homme qui a écrit « La colonne de feu ». Et c'est d'après ça que Cecil DeMille a tourné les 10 commandements. Donc, dans ce livre, nous voyons que cette Adina écrivait. Elle racontait là que le jour de la crucifixion, Marie Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons, s'est précipitée au devant de la foule en disant « Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait ?» Rien d'autre que de guérir les malades et de chercher à délivrer ceux qui étaient en prison. Qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est du rien? Dites-le-moi, quelqu'un! Et un homme l'a giflé et s'est presque retrouvé à l'autre bout de la cour. Et il a dit, allez-vous écouter cet idiote plutôt que d'écouter vos sacrificateurs? Voilà, voyez, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Pourquoi l'ont-ils crucifié? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu qui il était. C'est la même chose aujourd'hui. Les prédicateurs et les gens de notre époque et nos docteurs contemporains, ils ont tellement endoctriné les gens pour qu'ils croient que ceci, c'est de la sorcellerie, ou que c'est du diable, ou de la télépathie mentale, ou un coup monté, ou un genre de tour. à tel point que les gens ne reconnaissent pas que c'est la confirmation de la parole de Dieu pour aujourd'hui. Ce sont les signes du dernier jour. Les églises, si vous ne faites pas partie de leur organisation, elles disent, « Ah, ça, eh bien, c'est de la frime. Ça, c'est en coup monté. Eh bien, regarde, là, un tel et une telle. Mais qu'ils le prouvent donc, une seule fois, que la chose authentique est en coup monté. Ah oui, qu'ils le prouvent donc, une seule fois, que c'est faux. Ils ne peuvent pas. Il est reconnu que ça n'a jamais été faux, et ça ne le sera jamais, parce que c'est Dieu. » Voyez, par contre, ils aiment bien montrer du doigt. Ils pensent, oh, eh bien, si c'était un homme qui a une grande renommée, étant donné que c'est un petit groupe, une petite bande de gens qui sont un peu comme des bannis, eh bien, cette personne-là, nous l'avons expulsée de notre église. Voyez, avant, ils fréquentaient notre groupe, voyez-vous, mais ils sont allés se joindre à ceci, puis ils sont allés se joindre à cela. Et voilà que maintenant, vous voyez, ils se sont retrouvés. Eh bien, regardez ce que c'est. Qui c'est? Ça m'est égal. Ils auraient pu dire la même chose de Pierre, Jacques et Jean. Un homme du peuple sans instruction, c'est ce qu'ils disaient. Mais ils ont été forcés de reconnaître qu'il s'était passé quelque chose depuis ce temps-là. Ils avaient été avec Jésus. C'est ça qui faisait la différence. Voyez? Ils ont fait ça, c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu qui il était. Ils n'ont pas reconnu que la confirmation de la parole de Dieu, ce n'était pas là-bas qu'elle se trouvait, à cette époque-là. Bon, elle s'y était trouvée à une autre époque. Ça, c'était bien exact. Elle s'y était trouvée à une autre époque. Il fallait observer les lois et tout. Mais ces mêmes lois qui avaient été, qu'ils observaient, elles les dirigeaient vers le temps où il allait venir être l'homme même qu'il devait être. Ils avaient cette partie-ci, mais ils n'ont pas accepté l'autre partie. Et ce qu'ils font maintenant, c'est la même chose. Ils ont une église, et ils croient en Jésus-Christ. Ils disent qu'ils croient en lui. Et puis, mais ils nient l'heure où nous vivons. Ce qui ramène le vieux proverbe de nouveau. L'homme loue toujours Dieu de ce qu'il a déjà fait, il est dans l'expectative de ce qu'il pourrait faire ou de ce qu'il ferait, et ne tient aucun compte de ce qu'il est en train de faire. Et il est condamné à cause de ça. Voyez? Ils se disent, Dieu est merveilleux, comme il est grand. Ce qu'il va faire, il va venir, et il va y avoir un enlèvement un jour. On va rentrer à la maison. Et nie les signes et les prodiges qui se produisent ici même, en plein au moment où l'Écriture avait annoncé qu'il le ferait. Il passe complètement à côté de la chose. Si un aveugle conduit un aveugle, a dit Jésus, ils tomberont l'un et l'autre dans une fosse. Prions simplement Dieu qu'il ouvre nos yeux en ces derniers jours. Bien. Maintenant, c'est la même chose. Ils font la même chose aujourd'hui. Ils renient et ils crucifient le même Dieu aujourd'hui en ne le reconnaissant pas. La même chose en le reniant et en faisant du fait qu'ils le renient ces choses qu'ils font aujourd'hui. Ils ne crucifient pas Christ de nouveau, pas exactement, mais ils blasphèment le Saint-Esprit. Et en faisant ça, ils... En quoi est-ce qu'ils blasphèment le Saint-Esprit? En quoi est-ce qu'il l'avait blasphémé à cette époque-là? Eh bien, il ne pouvait pas le blasphémer à l'époque. Il n'était pas encore venu. Ils ont appelé Jésus Belzébul. Ils l'ont appelé Belzébul parce qu'il connaissait les secrets de leur cœur et tout. Il disait, c'est un démon. Autrement dit, c'est un diseur de bonne aventure. C'est comme ça qu'il s'y prend. C'est de la divination. Ce n'est rien d'autre qu'un démon. Voyez-vous, ça faisait 400 ans qu'ils n'avaient pas eu de prophète. Alors, ils avaient perdu l'habitude de ces choses. Voyez, tout ce qu'ils avaient, c'était leur loi. Ils disaient, c'est Belzébul. Et Jésus a dit, je vous le pardonne, mais quand le Saint-Esprit sera venu. Voyez-vous, maintenant, si vous parlez contre lui, ça ne vous sera jamais pardonné. Souvenez-vous, ça ne le sera et ne le pourra en aucun cas, il n'y a aucune miséricorde, quand vous blasphémez et que vous appelez l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui a été confirmée par l'Esprit. Voyez-vous, la parole dit qu'il en est ainsi, l'Esprit le confirme, et vous, vous dites que c'est quelque chose d'impur. Vous avez franchi la ligne qui sépare la miséricorde et le jugement. Ça ne vous sera jamais pardonné. C'est pour cette raison que j'accuse cette génération d'être coupable de crucifier, de blasphémer le Fils de Dieu manifesté, tel qu'il avait été promis par tous les prophètes et par Christ lui-même qu'il serait dans les derniers jours, comme au jour de Noé, au jour de Sodome. Un blasphème. En effet, il crucifie aux yeux des gens le Fils de Dieu de nouveau. Sa parole confirmée. Une seule parole contre cela ne pourra jamais être pardonnée. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire alors? Quelle position allez-vous prendre? Ils sont condamnés. Ils attendent simplement l'heure où la colère de Dieu se répandra. Ils seront écrasés. Ils aiment la doctrine des dénominations faites de main d'homme. Elle est dogme plus que la parole de Dieu confirmée. Cette génération de gens. Oh, je voudrais bien avoir beaucoup de temps pour apporter ceci. Voyez. Cette génération de gens. Cette génération rejette la révélation de Dieu. Mais nous suivons les traces des apôtres. C'est vrai. Dieu, vous dites, eh bien, les autres aussi, ils disent ça. Dieu le confirme. Jésus a dit, si les œuvres ne rendent pas témoignage de moi, alors allez-y donc, dites que je le dis par moi-même. Mais si les œuvres rendent témoignage, vous feriez mieux de croire aux œuvres, voyez-vous. Parce que l'heure est venue. Il a dit, vous savez que demain le soleil va briller, ou qu'il y aura de l'orange, parce que le ciel est d'un rouge sombre, que demain il fera beau. Il a dit, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais les signes du temps, vous ignorez tout. Si vous aviez connu Dieu, vous auriez connu mon jour. Et ils ont dit, tu fais beaucoup de choses de ton propre chef, tu te fais Dieu. Et ils l'ont attaché sur la croix. Et le Saint-Esprit aujourd'hui, ce n'est pas une troisième personne. C'est Dieu lui-même, manifesté dans la chair humaine, par le sang de Jésus-Christ, qui sanctifie une vie, afin qu'il puisse se refléter en elle. Et il crucifie cette même parole manifestée. Vous comprenez? La crucifixion de Christ aujourd'hui, c'est que les gens renient le Fils de Dieu, confirmé et manifesté au milieu des gens, parlé des choses qui témoignent de lui et dont il avait dit qu'elles se produiraient aujourd'hui par sa parole. Voyez? Donc, la même confirmation, forcément que ce serait la même, s'il est le même Fils de Dieu, puisqu'il a dit dans Jean 14, 12, là, que vous ferez vous aussi les œuvres que je fais. Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous demeurez en moi, Jean 15, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oui, monsieur. Souvenez-vous, ceux qui ont fait ça, c'étaient des gens très religieux. Ce n'étaient pas des étrangers. C'étaient les gens religieux de l'époque. Et ce sont eux qui le font aujourd'hui, les gens religieux. La même crucifixion, la même chose aujourd'hui. Rapidement, là, ils le crucifièrent, en ce temps-là, bien sûr. En ce temps-là, ils rejetaient la parole de Dieu manifestée. Ils acceptaient leur credo au lieu de la parole. Est-ce que c'est ça qu'ils font aujourd'hui? C'est exactement ça. Ils font la même chose aujourd'hui. Il était la parole et ils ont rejeté la parole. Ce point-là, c'en est un que je ne veux pas que vous manquiez. Voyez-vous, je ne veux pas que vous le manquiez. Il était la parole, et quand ils l'ont rejeté, lui, ils ont rejeté la parole. Et une fois qu'ils l'ont eu rejeté, alors ils ont fini par le crucifier. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont rejeté la parole de Dieu et accepté leur credo. Et ils ont crucifié publiquement, devant leur assemblée, l'action du Saint-Esprit. Alors, ils sont coupables, et je les accuse au nom de Jésus-Christ. Pendant 15 ans, je l'ai vu agir partout dans le pays, et ils continuent quand même à s'accrocher à leur credo. Ils sont coupables. Ils ont pris la parole qui aurait réuni l'Église, réuni toutes les Églises, et qui aurait suscité une grande union fraternelle entre les pentecôtistes et tous les autres. Au lieu de ça, ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé, s'en sont moqués, et ont traité cela de tous les noms, là. Et maintenant, par une fédération d'Églises qui met à exécution le plan du diable, ils cherchent à entrer, et ils disent, maintenant, nous viendrons acheter de l'huile. Ils sont rejetés. Ils sont coupables d'avoir crucifié Jésus-Christ. Vous recevrez ça aux conditions posées par Dieu, ou sinon, à vos conditions à vous, ça ne marchera pas. Voyez, ils ont rejeté la parole de Dieu manifestée en optant pour leur credo. Et ils font la même chose aujourd'hui. Il était la parole. Jean 1. Hébreux 13, 8 dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, ils le crucifient de nouveau. Saviez-vous que la Bible dit qu'on peut faire ça? Combien aimerait lire un petit peu? Voulez-vous me donner encore 15 minutes là-dessus? Très bien. Prenons donc un instant pour aller lire ça. Crucifié de nouveau. Prenons dans Hébreux chapitre 6. Et lisons un petit peu. Hébreux 6, pour voir si nous crucifions de nouveau le Fils de Dieu. Voir si c'est chose faisable. Vous dites, on ne peut pas le crucifier une deuxième fois. Nous allons voir si on le peut, oui ou non. La parole de Dieu est vraie, n'est-ce pas? C'est Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser un fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voyez-vous, Paul veut reconnaître que ces choses-là sont absolument essentielles. Les baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection, la seconde venue, toutes ces choses sont éternelles. Elles sont la vérité absolue. Maintenant, remarquez. Car il est impossible. Lisez-le avec moi, ce verset-là. Je veux que vous le lisiez avec moi. Maintenant, le verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Ça, est-ce que c'est ma parole ou bien la sienne? L'homme qui arrive à une connaissance. Souvenez-vous, ils ne l'ont jamais reçu. C'était des croyants frontaliers. Après avoir reçu la connaissance de la parole de Dieu, vous la recevez au niveau de la connaissance pour l'avoir lue et pour l'avoir vue. Et ensuite, vous la rejetez. Alors vous, il est impossible que vous soyez un jour sauvés. Est-ce que vous l'avez lue, là, voyez-vous? Avoir reçu une connaissance de la vérité. Vous le comprenez, c'est tout. Vous ne l'avez jamais reçu. C'est comme ces croyants qui étaient allés là-bas. C'est le type même du voyage. Ceci, ce troisième exode, celui-là est simplement un type des deux autres. Regardez, à cette époque-là, je vais vous montrer quelque chose, là, pendant une minute. Pardonnez-moi cette expression. Regardez. Israël avait choisi 12 hommes, un de chaque tribu, un chef dénominationnel, et on les avait amenés là-bas, à la frontière, tout près du pays promis. Et on leur avait montré les biens à venir, ce qu'ils possédaient. Et ils sont revenus en se plaignant que nous ne sommes pas capables d'y arriver. Mais il y en avait deux parmi les 12, Josué et Caleb, qui ont dit qu'ils regardaient à la parole. Dieu a dit qu'il nous appartient, et nous sommes plus que capables de nous en emparer. Pas vrai? Qu'est-ce que c'était? Des croyants frontaliers, voyez? En fait, ils étaient nés dans cette église. C'étaient des chefs du peuple, c'étaient des évêques, pour ainsi dire, qui se sont avancés jusqu'au lieu même où la parole de Dieu avait été démontrée comme étant la vérité. Voilà le pays, ils n'y avaient jamais été auparavant. Ils ne savaient pas qu'il était là, mais ils y sont allés pour voir qu'il était bien là. Il était bien là. Et Caleb et Josué, ils sont allés, ils en ont rapporté une grappe de raisin, et ils le leur ont fait goûter. Ils ont goûté le bon pays. Ensuite, ils s'en sont retournés, et ils ont dit, nous ne pouvons pas y arriver, voyez, nous ne pouvons vraiment pas y arriver. Voici le même groupe de gens du temps de Jésus-Christ. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, voyez, frontalier. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces choses que tu fais. Nous reconnaissons qu'il faut que Dieu soit avec toi. Pourquoi ne l'ont-ils pas accepté? Pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Frontalier. Les voici maintenant en ce troisième exode. Le même signe, la même manifestation, le même Christ, le même Saint-Esprit, les mêmes œuvres, le même Dieu, le même message. Et ils ne peuvent pas l'accepter. Ils seraient obligés de céder leur carte d'association. Qu'en est-il? Ils ont reçu une connaissance de la vérité. Ils ont regardé et ils ont vu que c'était tout à fait la vérité. Ils ne peuvent pas le nier. Les magazines sont obligés d'en témoigner qu'ils ont vu ça. Les photos, les journaux, la preuve, la résurrection de mort, les attestations de médecins sur des cas de maladie, ils sont obligés de dire que c'est lui. Et les prédictions, pas une seule d'entre elles n'a jamais manqué de se réaliser tout au long des années. Elles sont toutes arrivées pile exactement. Ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas Dieu, mais ils ne peuvent pas l'accepter. Cette bande de prédicateurs à Chicago, il y en avait 300 et quelques. Ils devaient venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Où sont-ils? Le prix est trop élevé. Ils ne peuvent pas. Qu'en est-il? La Bible dit que quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils franchissent eux-mêmes la ligne de séparation entre la miséricorde et le jugement. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont été amenés à regarder cela, qui ont reçu une connaissance de la vérité, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et qui s'en sont détournés, si bien que là, il faudrait qu'ils se renouvellent, qu'ils disent, « Bon, eh bien, je le ferai, oui. » Vous, les presbytériens, vous, les méthodistes, les baptistes et les luthériens, ces salades, des hommes d'affaires du plein évangile, qui racontaient qu'ils allaient venir, ils ont rejeté le message. Votre Église le fera. Il y aura des individus qui y seront, bien sûr, mais pas l'Église. Vous devez sortir de l'Église pour le recevoir. Voyez, c'est vrai, des individus, ça, d'accord. Mais quand vous pensez que l'Église presbytérienne va recevoir le Saint-Esprit, et qu'ils vont tous laisser tomber leurs documents, eh, n'allez jamais penser ça. Vous pensez que vous, les méthodistes, vous allez faire ça? Vous ne le ferez jamais. Pensez-vous que vous, les trinitaires, vous allez finir par accepter le nom de Jésus-Christ et que chacun de vous va se faire baptiser au... Vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais. Mais des individus sortiront de là et eux le feront, c'est vrai. Et c'est ça le signe de sa venue. Mais quant aux églises qui ont vu la vérité et qui l'ont rejetée quand elles ont tenu conseil, c'est impossible. Alors, elles sont coupables de la crucifixion de Jésus-Christ. Et je les accuse par la parole de Dieu. Parce que Dieu, comment pouvez-vous les accuser, frère Branham? Je les accuse parce que Dieu s'est clairement identifié dans sa parole dans les derniers jours. Et qu'il s'est fait connaître, démontrant qu'il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ils ont froidement refusé cela. Vous êtes coupable de la crucifixion de Jésus-Christ pour avoir blasphémé le Saint-Esprit. C'est vrai. Nous vous renvoyons à Hébreux 10 de nouveau, où il nous est dit dans les Écritures, là encore, que non seulement c'est impossible, mais que vous ne pourrez jamais, ça vous sépare de Dieu éternellement. Vous ne pourrez jamais plus entrer dans la présence de Dieu une fois que vous avez rejeté le Saint-Esprit et que vous vous êtes moqué de lui. Donc, voyez-vous, on goûtait la parole. Voyez-vous, des croyants frontaliers. On vous dit que ces gars-là n'étaient pas des croyants. C'étaient des croyants. Du moins, ils faisaient profession d'être croyants. Mais quand il s'est agi de la parole, ils étaient Israël, ils étaient sortis sous le sang, ils étaient sortis sous l'action des signes de Moïse. Ils avaient vu ces signes s'opérer. Dieu avait dit, « Je vais vous emmener là-bas. » Mais quand il s'est agi du principe même, de la parole promise qui devait se réaliser, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, nous ne pouvons pas y arriver. » Voyez? Et là, ils étaient revenus avec des raisins et tout pour prouver que le pays était bien tel qu'il devait être. La parole de Dieu est vraie. Dieu avait dit, je vous le donne, mais les circonstances. Oh, il disait, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Nous ne pouvons pas y arriver. Il n'y a absolument pas moyen. Il y a quelques années, à l'époque de cette vieille bicoque qu'était le tabernacle ici, quelqu'un était entré, puis il est venu me parler dehors. Il m'a dit, « Billy, à prêcher des messages comme celui-là, un de ces jours tu vas prêcher à quatre poteaux. » J'ai dit, « Je prêcherai à quatre poteaux, parce que de ces poteaux, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Oui, monsieur, c'est la vérité. J'ai dit, « Si vous avez des arguments qui peuvent démontrer la fausseté de cela, allez-y. » Ils aiment vous narguer. Mais quand il s'agit de démontrer la chose, là, c'est différent. Oui, c'est ça qui fait la différence. Bien. Oui, par leur credo, ils le crucifient de nouveau. Maintenant, Hébreux, chapitre 6, et nous continuons. Nous pourrions continuer à lire, et continuer à lire, parcourir ce qui se trouve ici. Nous avons beaucoup de temps. J'ai noté une écriture ici, le passage où vous trouverez ça. Hébreux, chapitre 6, tout simplement... Notez-le au complet, je pense. Impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin là-dessus, parce qu'il y a un autre passage de l'Écriture que je voudrais vous faire lire dans un instant. Remarquez ceci, ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quoi? C'est qu'ils y ont goûté, qu'ils savaient que c'était la vérité, et ensuite ils ont fait demi-tour et l'ont nié. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Il est impossible. Alors voilà ce que cette nation a fait. Voilà ce que ce peuple a fait. Voilà ce que ces églises ont fait. Elles ont rejeté cela et elles ont crucifié le message. Elles ont crucifié la vérité aux yeux des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Ils l'ont déshonoré, ils l'ont dépouillé de ses vêtements, ils l'ont pendu à la croix, ils l'ont cloué là-haut, le prince de la vie. Ils ont fait la même chose aujourd'hui par leur credo. Ils ont fait la même chose. Ils l'ont dépouillé de ces choses. Ils ont dépouillé l'évangile de sa bonté et de son vêtement, en essayant de dire que ça s'applique ailleurs, et ils l'ont pendu à la croix. Oh là là! Pourquoi? Là, ils le crucifièrent. Maintenant, la dernière citation. Lui, cette personne la plus précieuse. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi est-ce qu'ils le font aujourd'hui? Ils ne reconnaissent pas que ceci est la vérité. Ils sont muets et aveugles devant elle. Ils ne la reconnaissent pas. En voilà la raison. Leur credo et leur tradition les ont éloignés de la parole de Dieu. Maintenant, je m'adresse à vous qui êtes ici pour conclure. Écoutez ceci avec beaucoup d'attention. Voyez, je sais qu'il fait chaud. Moi aussi j'ai chaud. Mais, oh frère, cette parole, c'est la vie, pourvu que vous vous en teniez à elle. Regardez, ce n'est pas quelque chose que nous avançons, qui pourrait arriver ici et plus tard. C'est quelque chose qui est déjà ici avec nous, et qui est en train d'arriver maintenant même. Non pas quelque chose qui sera, quelque chose qui est déjà. Nous ne rendons pas témoignage que nous savons ce qu'il a fait, que nous savons ce qu'il va faire, mais maintenant, nous disons ce qu'il est en train de faire. Voyez, c'est maintenant notre heure à nous. Il se pourrait que nous ne vivions pas assez longtemps pour voir l'enlèvement. Il se pourrait que je meure aujourd'hui. Il se pourrait que vous mouriez aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais l'enlèvement va avoir lieu. Ça, c'est... Quand ça aura lieu, nous y serons. Ne vous en faites pas. Oui, et tous les autres aussi, qui, tout au long des âges, y ont cru et l'ont attendu. Ils ont marché dans la lumière de leur jour. Et voici la lumière. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Abandonnez vos credos et croyez cette parole. C'est ceci qui est la vérité. La parole est la vérité. Jésus a dit, « Mes paroles sont esprit. Ma parole est vie. » Comment pouvez-vous recevoir la vie alors que vous rejetez la vie? Comment pouvez-vous accepter un dogme qui est la mort tout en acceptant une parole de vie? Vous mettez la parole de vie à la porte pour recevoir la mort. Comment pouvez-vous accepter les deux à la fois? Vous ne pouvez pas. Que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, tout dogme pour mensonge. La parole de Dieu est la vérité. Je mets au défi n'importe quel homme de me montrer n'importe qui. Et je sais que cette bande va partout dans le monde. N'importe quel homme, n'importe quel évêque, de venir dans mon bureau ou devant cette assemblée et d'indiquer un seul endroit où qui que ce soit ait jamais été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Moi, je vous y montrerai que toutes les personnes qui ont été baptisées et celles qui avaient été baptisées autrement ont été obligées de venir se faire rebaptiser pour recevoir le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous allez faire à l'égard de ces choses? Restez là-bas dans vos credos, restez là-bas dans vos dogmes et mourir? Vous êtes coupable par la main des impies. Vous avez crucifié le prince de la vie, la parole de vie aux yeux des gens. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne savaient pas. Aujourd'hui, les hommes marchent dans l'ignorance. Ils ne savent pas que c'est la vérité. Ils pensent que c'est un isme quelconque. Ils ne creusent pas assez profondément pour entrer dans l'esprit de révélation. Ils ne prient pas assez. Ils n'invoquent pas Dieu assez. Ils prennent cela à la légère. Oh, eh bien, je crois qu'il y a un Dieu, bien sûr. Le diable croit la même chose. Le diable croit plus que certaines personnes prétendent le croire. Le diable croit, elle tremble. Les gens ne font que le croire. Elles poursuivent leur chemin. Mais le diable tremble de savoir que son jugement vient. Alors que les gens le croient, et ils ne prêtent aucune attention au fait que le jugement vient. Coupable de le crucifier, bien sûr. J'accuse cette génération. Je les déclare coupables par la parole même qui les avait déclarés coupables au commencement. C'est vrai. Jésus a dit, « Qui peut me déclarer coupable ?» Il était la parole faite chair. Et aujourd'hui, la même parole est faite chair. Pierre a dit, quand il a porté son accusation dans Actes, lisons-le donc. Pierre, quand il a vu ce qui se passait, ce qu'ils avaient fait, l'Esprit, regardez, Pierre défendait Christ par rapport à ce que eux, ils avaient fait. Moi, je défends ce que sont les évangiles. Pierre les a accusés d'avoir tué l'homme, Christ, qui était la parole. Moi, j'accuse cette génération d'essayer de tuer la parole qui est manifestée dans des hommes. Observez ce que Pierre a dit. Sa juste indignation avait dû être excitée à un très haut degré. Écoutez-le ici, dans Actes chapitre 2, et à partir du verset 22. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth a prouvé, cet homme prouvé de Dieu devant vous par les miracles, les signes que Dieu a fait par lui au milieu, comme de vous, comme vous le savez vous-même. Imaginez ce qu'ils ont dû ressentir. Écoutez ça, Israélites, le prince, vous les hommes d'église, vous les hommes saints, vous les sacrificateurs, vous les hommes censés être des hommes de Dieu. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth a été approuvé de Dieu devant vous. Maintenant, je vous dis à vous, membres du clergé, et à vous tous, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, il est ici dans la personne du Saint-Esprit, la vie même qui était en lui. Il est ici en train d'œuvrer à travers des gens et de se faire connaître par les signes et les prodiges qu'il accomplit. Et les preuves sont ici, accrochées au mur, identifiées par la science. Et des gens sont assis ici. Ils étaient morts et aujourd'hui ils sont en vie. Ils étaient rongés par le cancer et aujourd'hui ils sont en bonne santé. Ils étaient aveugles et aujourd'hui ils voient. Ils étaient infirmes et aujourd'hui ils marchent. Il est Jésus de Nazareth. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, prédestiné à sa tâche. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Ça, est-ce que c'est une accusation? Il accuse quoi? Ce conseil du Sanhédrin. Et moi, ce matin, j'accuse la fédération des églises. J'accuse les pentecôtistes, j'accuse les presbytériens, les baptistes et toutes les dénominations du monde. Poussés par l'appât d'un gain sordide et intéressé, vous avez crucifié la parole de vie devant les gens. Vous l'avez blasphémé et vous l'avez appelé fanatisme, alors que Dieu a suscité cela au milieu de nous pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'accuse cette génération. Dieu a prouvé qu'il est vivant. Dieu a prouvé que ceci, c'est sa parole. Qu'est-ce que vous avez d'autre qu'un tas de dogmes et de credos? Où est-ce que vous pouvez produire le Dieu vivant? En effet, vous avez rejeté la parole de vie qui vous aurait donné ces choses. Oui, monsieur. Oh, quelle heure que celle où nous vivons maintenant. Même chose. Oh, je déclare, Pierre a dit, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et par vos credos, par vos organisations et vos dénominations, par votre forme extérieure de piété, on continue à parler, par vos formes extérieures de piété, vous avez renié la puissance de sa résurrection. Mais l'heure est venue, les derniers jours sont arrivés. Le temps où Dieu a promis, selon Malachi 4, qu'il susciterait dans les derniers jours et qu'il ramènerait le cœur des gens aux bénédictions originelles et à la foi pentecôtiste des pères. Vous ne pouvez pas le nier et vous ne pouvez pas vous y opposer. Et maintenant, je vous condamne. Vous êtes coupable et je vous adresse une sommation. Je vous accuse devant Dieu d'avoir, par la main sordide et intéressée des dénominations, crucifié la parole de Dieu devant les gens. Et je vous déclare coupable et prêt pour le jugement. Amen. Oui, monsieur, j'adresse le même appel que Pierre. Il a adressé à cette génération-là un appel à la repentance. J'adresse à cette génération-ci un appel à la repentance envers Dieu et à un retour à la vérité originelle de la parole. Revenez à la foi de nos pères, revenez au Saint-Esprit, parce que Dieu ne peut faire aucun changement à cela. Quand Dieu dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », il est obligé de s'en tenir à ça pour toute l'éternité. C'est sa parole. Quand vous dites « serre la main » ou « prenez la communion » ou quelque chose comme ça, quelque chose en rapport avec ce credo-là, quelque chose dans cet ordre d'idées-là, que n'importe quel homme, n'importe quel ivrogne, n'importe quel incrédule peut faire, n'importe quel imitateur, n'importe quelle prostituée peut faire ça, prendre la communion, adopter des formes et des choses comme ça, vous pourriez faire ça. Mais Jésus a dit que l'identification, ce serait ceci. Voici les signes qui accompagneront, non pas peut-être qu'ils les accompagneront, ils accompagneront. De génération en génération, ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront d'autres langues, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, et cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, chassez les démons. Comme vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Toutes ces combines lucratives et tout, et de s'embarquer dans toutes sortes de choses aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'ils soient tellement gloutis dans le jugement. Oui, monsieur. Oh là là. Maintenant, voyons un peu. Oui, monsieur. L'appel à la repentance et l'accusation que je porte maintenant, en ce nouveau calvaire, il s'agit de l'Église, les lieux prétendus les plus saints, les chairs imposantes, l'autel du catholicisme, l'autel catholique, ce qu'ils appellent leur chair, celle des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes. Les lieux les plus saints, c'est là qu'on le perce le plus violemment. Un nouveau calvaire. Où est-ce que ça se trouve? Dans les lieux saints, l'Église. Où est-ce qu'on le crucifie? Ce sont les pasteurs qui le font. Hypocrites que vous êtes, vous savez ce qu'il en est. Je ne suis pas en colère, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'agite. Dieu a été parfaitement bien identifié parmi vous. Les coups de lance dans son côté, où est-ce qu'il les a reçus? Où est-ce qu'on l'a percé? Sur le calvaire. Où est-ce qu'on le perce aujourd'hui? Du haut de la chair. D'où est-ce qu'il provenait? De Jérusalem. D'où est-ce qu'il provient? De la dénomination. Ceux qui prétendaient l'aimer, c'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui le font aujourd'hui. Son deuxième calvaire, alors qu'on le perce de coups portés contre la parole. Voilà ce qui le perce. Qui est-il? Il est la parole. Il est la parole. Où est-ce qu'on le perce le plus violemment? Du haut de la chair, dans les lieux saints, tout comme en ce temps-là. J'ai le droit d'accuser cette génération. J'ai le droit de le faire comme ministre de l'Évangile de Jésus-Christ, accompagné de ses signes et présentant la preuve qu'il est Dieu. J'ai le droit de porter une accusation contre cette génération. En effet, les coups de lance les plus violents qu'il a reçus, il les a reçus de la chair, où ils ont critiqué la chose et dit, « N'allez pas écouter ce genre de choses. » C'est du diable, en plein dans le lieu où on est censé l'aimer. Et les signes même que Jésus avait annoncés, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. La parole discerne les pensées, les intentions du cœur. Et on appelle ça du diable. Où ça? Du haut des chairs, des lieux saints. Oh Dieu, comment peut-il abaisser le regard? Ce n'est que sa miséricorde, c'est tout, sa grâce. Nous ne pouvons pas faire autrement que d'aller vers le jugement. Nous en sommes déjà là. Oui. Pensez-y, là où il a été percé le plus violemment, c'est du haut de la chair. C'est là que se déroule son nouveau calvaire. Il le crucifie, lui, la parole, du haut de la chair. C'est vrai. Comment sont-ils arrivés à faire ça? Par leurs formes extérieures de piété. C'est exactement ça. Couronné depuis l'auditoire par les moqueurs. Il a une nouvelle couronne d'épines. Les moqueurs, percés du haut de la chair, couronnés par les moqueurs. Est-ce qu'on le crucifie encore une fois de nouveau? Meurtri par des credos faits de main d'homme, des docteurs de la dénomination qui s'opposent à sa parole. Ils la meurtrissent, la déshonorent, ils la condamnent. Jésus a dit, c'est en vain qu'ils me rendent un culte. En vain, ça ne sert à rien. À qui est-ce qu'ils rendent un culte? Ils rendent un culte à ce même Dieu. Ils rendaient un culte à ce même Dieu lors de sa première crucifixion. Et c'était un culte vain. C'est la même chose aujourd'hui. C'est en vain qu'ils construisent ces dénominations. C'est en vain qu'ils construisent ces séminaires. C'est en vain qu'ils ont ces credos. En enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes et en niant la parole de Dieu.
You're guilty of crucifying the prince of life.
De crucifier le prince de la vie en enseignant des doctrines d'hommes au lieu de sa parole. C'est en vain qu'il me rend un culte. Meurtri, percé, couronné. Quand on les voit qui circulent dans la rue, et quelques-unes d'entre vous, les dames, qui ont une longue chevelure, ils disent, elle est vieux jeu, hein? Sauvez-vous! Ce sont des moqueurs. C'est ça, la couronne que vous portez. Dieu a dit que c'était votre gloire. Portez-la fièrement. Alléluia! Portez-la fièrement, comme vous porteriez une couronne d'épines pour votre Seigneur. Portez-la fièrement, n'ayez pas honte. C'est ce que lui, il a dit. Qu'importe ce que disent ces Jézabels d'aujourd'hui, ce que ces imposteurs qui se tiennent en chair, ceux qui crucifient Christ, qu'importe ce qu'ils disent, portez-la fièrement. C'est ce que Dieu a dit. Gardez-la, couronnée par des moqueurs de nouveau, des épines, percées du haut de la chair avec des credos. Il a eu un nouveau Golgotha, là où il l'emmène. Ces chorales en longue robe, des femmes qui portent des shorts, qui ont les cheveux coupés, le visage fardé, et qui chantent dans la chorale comme des anges. Elles ont des talents. C'est son nouveau Golgotha. Tout simplement, des stripteaseuses contemporaines, protégées par une loi, comme à Sodome et Gomorre. On voit une petite chienne se promener dans la rue. À certaines périodes, il n'y a pas un seul chien qui va s'approcher d'elle. Qu'une certaine chose arrive, elles vont tous courir après elle. C'est qu'il lui est arrivé quelque chose. Vous savez pourquoi? Pourquoi donc est-ce que ces femmes se déshabillent et se promènent comme ça dans la rue? Ne me dites pas que ce n'est pas pareil. C'est une identification. Ne condamnez pas les hommes, mais elles sont protégées par une loi sodomique. Cette loi devrait déclarer qu'il leur est interdit de sortir comme ça. Les prédicateurs en chair, ils devraient porter un jupon au lieu d'un habit ecclésiastique. Ils se tiennent là et ils permettent ces choses. Ils ont honte de s'élever contre ça parce que leur dénomination les mettrait à la porte. Vous crucifiez aux yeux de l'assemblée la parole de Dieu qui dit que c'est une abomination pour une femme de porter un vêtement d'homme. Je condamne la chose. Je l'accuse de crucifier la parole de Dieu devant les gens. Des femmes aux cheveux coupés, qui portent des shorts et la couronne, elles font partie de la chorale. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, une femme me demandait, elle disait, « Eh bien, d'après vous, où allez-vous en trouver ?» J'ai dit, « Si le Seigneur me demandait d'en choisir une douzaine dans le monde entier, je serais complètement paniqué. » Alors que, par le discernement de l'esprit, je suis là à les observer, à me tenir là, comme ça, et à voir ces choses qui sont sur elles. Des fumeuses de cigarettes, impures, dégoûtantes, dégradées, là-bas, à faire toutes sortes de choses comme ça. Et elles vont se tenir là, dans une chorale, en longue robe, et chanter dans cet état-là, se présenter devant l'auditoire. Elles vont dire, eh bien, si elle peut le faire, moi aussi je le peux. La vie chrétienne est une vie de sainteté, de pureté, d'innocence. Je les accuse au nom de Jésus-Christ, à cause de leur souillure et de leur saleté. Elles ont jeté l'opprobre sur l'Évangile. Et celles qui essayent de s'y conformer, on les traite de fanatiques. On dit que c'est vieux jeu. Quel non-sens! Je les accuse au nom de Jésus-Christ. Ce sont tout simplement des stripteaseuses contemporaines qui circulent dans la rue. Elles chantent dans les chorales, elles qui fument la cigarette, qui racontent des histoires sales, qui ont trois ou quatre maris et qui en cherchent un sixième. Et elles vont chanter dans la chorale parce qu'elles ont une belle voix. Pauvres êtres intellectuels, dénués de l'esprit, rejetés sur votre propre terrain, vous lisez la même Bible que n'importe quel autre homme peut lire, mais vous avez rejeté l'Esprit de Dieu, si bien que la Bible dit que vous serez livrés à une puissance d'égarement pour que vous croyiez au mensonge et que vous soyez condamnés à cause de ça. Vous croyez réellement que vous êtes dans le vrai, et la Bible dit que vous allez le croire, être condamné à cause de ce mensonge même que vous croyez être la vérité. Par conséquent, je vous accuse par la parole de Dieu. Vous enseignez une erreur aux gens, et vous crucifiez les principes de Christ, de la sainteté et d'une vie irréprochable, qui donne à une personne de sortir dans la rue en étant une personne différente. Des prédicateurs vont se tenir là, sur les terrains de baseball, à fumer la cigarette, des pierres d'achoppement, toutes les autres âneries qu'ils tolèrent, les femmes de leur chorale, qui portent des shorts, qui ont les cheveux coupés et qui se conduisent n'importe comment, le visage fardé. Et puis, ils appellent ça « sœur une telle ». Alors que la Bible condamne ce genre de choses, c'est vrai, aller à des soirées et vous conduire n'importe comment, tout en étant membre de l'Église, maintenir votre témoignage, alors que vous vivez n'importe comment, comme vous l'entendez. N'allez pas penser que je parle seulement des presbytériens. Je parle de vous, les pentecôtistes. C'est vrai, à un moment donné, vous avez connu la vérité, mais vous vous êtes dit que vous ne pourriez pas l'assumer. Vous ne pourriez pas subvenir aux besoins de votre pasteur. Votre pasteur ne pourrait pas avoir ce poste important avec un salaire de plusieurs centaines de dollars par semaine et une grande et belle église dans laquelle prêcher et se promener en voiture et faire toutes les choses que ces gens-là font. S'il condamnait ça, l'organisation le mettrait à la porte. Alors, il est obligé de s'en tenir à ça. Il est obligé de dire ça. Par conséquent, il a vendu ses droits d'aînesse pour un plat de lentilles du monde, de la pâté d'Ésaü. Et qu'est-ce qu'il va récolter pour ça? L'un et l'autre tomberont dans la fosse de la condamnation et ils seront condamnés. Je les accuse d'être des prostituées de l'Évangile. J'étais à une chorale, c'était à l'un des grands endroits bien connus il n'y a pas longtemps, un groupe parmi ceux de plus haut rang des pentecôtistes. Et il s'est trouvé que j'étais dans le bureau de ce frère, au moment où quatre ou cinq chorales se rencontraient là-bas. Et il s'agit là de quelques-unes des organisations pentecôtistes de premier ordre. Et il ne savait pas que je me trouvais dans le bureau de ce ministre, c'était dans l'Oklahoma. J'étais assis à l'étage du dessous, là où ce ministre étudie avant de venir sur l'estrade. Et à ce moment-là, il y avait là des petits Ricky et des Ricketta maquillés. Pas une seule d'entre elles n'avait les cheveux longs. Elles avaient toutes les cheveux coupés. Elles étaient toutes maquillées. Elles portaient toutes la longue robe. Et il y avait un petit Ricky qui était là, à se promener comme ça. Et un autre homme allait ramasser une offrande missionnaire. Il faisait comme s'il était aveugle, une coupe à la main. Il se promenait en disant toutes sortes de blasphèmes au sujet de ramasser l'offrande et des choses comme ça. Mais il s'est présenté là et il a essayé de chanter le Messie. Oh là là, et il a quand même bien chanté, mais ça ne donnait pas un son clair. Non, c'était mort, voyez-vous. Oh là là, voilà, c'est son nouveau Golgotha. D'après vous, si une jeune fille ou une jeune femme s'était trouvée là, voyons, qu'elle était entrée là, habillée comme il se doit, les cheveux longs, sans aucun maquillage, ni rien de tout ça, il se serait moqué d'elle. S'il avait pris position, et pendant qu'il faisait tout ce remue-ménage, ce groupe de jeunes, il y en avait une trentaine ou une quarantaine, l'élite des pentecôtistes, et il faisait des choses pareilles. Si cette jeune fille avait dit quelque chose à ce sujet, il l'aurait exclu de la chorale. Si le prédicateur de l'Évangile se tenait en chair et disait quelque chose à ce sujet, il le mettrait à la porte de l'organisation. Vous crucifiez de nouveau le Fils de Dieu et vous le déshonorez publiquement. C'est son Évangile que vous prétendez prêcher et vous le crucifiez. Cette génération qui rejette Christ, je l'accuse par la parole de Dieu et par la puissance de cette parole qui produit en ces derniers jours la confirmation qu'il est toujours vivant. Oui, ils sont contre la parole de Dieu, nettement confirmée. Leurs organisations ne peuvent pas l'affronter. Les grandes églises et les dénominations, c'est son nouveau calvaire, je le répète. Ce sont elles, ces stripteaseuses contemporaines, qui sont leur chorale. Le souverain sacrificateur de chaque dénomination s'écrit, comme le souverain sacrificateur de ce jour-là. Maintenant, descends et fais-nous voir un miracle. Oui, ça, c'était la première crucifixion. C'est la même chose aujourd'hui. Certains m'ont dit, « Eh bien, tu ressuscites tes morts, toi, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas là-bas? Tu as une épouse au cimetière. Tu as un bébé là-bas. » Ils lui ont dit, « On nous dit que tu as ressuscité les morts. Nous avons un cimetière plein de morts par ici. Viens les ressusciter. » Oh, l'ignorance engendre l'ignorance. Voyez, oui. Les grandes églises, les grandes chorales, les souverains sacrificateurs d'aujourd'hui, descendons! Fais-nous voir un miracle que notre dénomination ne peut pas faire. Il n'y a pas longtemps, un homme m'a fait une remarque sur, après une petite émission à laquelle j'avais participé, à Jonesboro, en Arkansas, où j'avais parlé d'une femme qui avait été guérie. Cet homme, qui faisait partie d'une certaine église dénominationnelle, il s'était présenté là, il avait dit, « Je mets n'importe quel homme au défi de me présenter de me faire voir un miracle. Je suis allé chercher un médecin. Un homme avait été guéri d'un cancer. Je suis allé chercher une femme qui avait été dans un fauteuil roulant pendant une vingtaine d'années. Elle avait été guérie de l'arthrite. Elle avait été dans un fauteuil roulant. J'ai apporté tout ça et j'ai dit, « Maintenant, je veux cet argent, $1,000. » Il a dit, « Eh bien, ce n'est pas ici. C'est là-bas, à Waco, au Texas, là où se trouve notre siège. » J'ai dit, « D'accord, on n'a qu'à aller là-bas chercher ça. » J'ai dit, faites les préparatifs et on y ira demain. Voyez, j'ai dit, on va poster. J'ai dit, voici le médecin qui est ici pour déclarer que ces gens-là avaient carrément le cancer. C'est ici sur la liste, la radiographie. Voici cette femme. Tout le voisinage sait qu'elle a été assise dans un fauteuil roulant pendant 20 ans. Elle marche maintenant. Elle est médecin. Il y a eu médecin après médecin après médecin après médecin et tout. Et la voici. Elle est vivante aujourd'hui. Maintenant, vous avez dit que vous alliez donner $1,000. Je veux verser ce montant dans un fonds missionnaire. Je le veux. Voyez, il a dit, « Eh bien, c'est là-bas, à Waco, au Texas. » J'ai dit, « On ira demain. » Il a dit, « Attendez une minute, je vais vous dire quelque chose. Je vais emmener une petite fille avec moi, et je vais lui couper le bras avec un rasoir. Ensuite, guérissez-la devant nos frères, et ils vous donneront l'argent. » J'ai dit, « Espèce de démon. Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix. » Dis-nous qui t'a frappé. Il lui avait entouré la tête d'un morceau d'étoffe. Il le frappait à la tête en disant, « Maintenant, si tu es prophète, dis-nous qui, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Des aveugles qui conduisent des aveugles. Ils ont besoin de guérison mentale. Un homme qui ferait une chose pareille ou qui ferait une remarque pareille, certainement. Mais c'est le vieux cri familier que nous te voyons faire un miracle. « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Alors que chaque jour, à chaque heure, il se produisait continuellement, selon que Dieu conduisait ces choses. Mais eux n'étaient pas présents. Et s'ils l'étaient, ils appelaient ça Belzébul, le diable. Voyez ? Nous voudrions que tu le fasses à notre manière, comme nous voulons que tu le fasses. C'est ça. Que tu ailles où nous voulons que tu ailles. Que tu fasses ce que nous voulons. Oh oui. Ils n'étaient pas leurs marionnettes. Non, monsieur. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils l'ôtent du milieu d'eux. Oui, monsieur. Ils cherchent à faire la même chose aujourd'hui. Et c'est par la Fédération des Églises qu'ils finiront par réussir à le faire. Voyez-vous, alors qu'elles se rassemblent toutes, le vieux cri familier. Nous voyons ici, de nouveau, le lieu le plus religieux. Les théologiens les plus raffinés, qui élèvent la voix, de nouveau, et contre lui. Ils élèvent la voix, même les meilleurs théologiens qui devraient savoir ce qu'il en est, même les églises les plus imposantes et les théologiens les mieux formés le chassent du milieu d'eux. Ils ne veulent pas de cela. Vous dites, c'est faux, frère Branham. Alors, vous n'étiez pas ici pour voir les âges de l'église ou pour entendre prêcher là-dessus. Vous n'étiez pas ici alors que cet âge de l'église de la Odyssée était le seul où on l'avait chassé de l'église. Et il était à l'extérieur, au dehors. Il frappait. Il cherchait à revenir à l'intérieur. Ils l'ont chassé parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. Ils le crucifient de nouveau. Amen. Nous pourrions continuer pendant combien de temps? Souvenez-vous, le prophète de la parole de Dieu nous a annoncé d'avance dans 2 Timothée 3, si vous le notez, nous n'avons pas le temps de le lire. Mais il y est dit que dans les derniers jours, il viendrait des moqueurs. Ils seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, calomniateurs, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, érudits, ayant une forme extérieure de piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de tels gens. Il en est parmi eux qui entraînent des femmes d'un esprit faible et borné, qui ont les cheveux coupés, qui portent des shorts, qui ont le visage fardé, de lieu en lieu, il les mène captives. C'est exactement ça. Il a dit, détourne-toi de ça dans les derniers jours. Obéissons aux prophètes. Détournez-vous de ces choses dans les derniers jours. Elles en sont là. Je lance un appel à l'église maintenant. Oui, monsieur, éloignez-vous de ça. Ils ont, eux, les ministres d'aujourd'hui, ils devraient reconnaître ces choses. Ils auraient dû reconnaître Jésus à son époque. Ils auraient dû reconnaître, et maintenant, ils devraient reconnaître ça, mais ils ne le reconnaissent pas. Tout comme les docteurs juifs de son époque auraient dû le reconnaître par son jour. C'est la même chose aujourd'hui. La parole de Dieu avait été clairement confirmée en ce temps-là. Il était la parole, et il a prouvé qu'il était la parole. Il a prouvé qu'il était la parole pour ce jour-là. Et aujourd'hui, Dieu a prouvé qu'il est la parole de ce jour-ci, la lumière de l'heure. Ils auraient dû le reconnaître en ce temps-là, et ils devraient le reconnaître maintenant. Ils l'ont crucifié en ce temps-là, et ils le crucifient maintenant. Je les accuse de ça. C'est vrai. Comme un éclair, ça me traverse continuellement. Accuse-les, parce que Dieu va le leur faire payer cher. Les Juifs de leur époque, Dieu de nouveau, au jour où il était sur terre. Jésus a dit, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler pour former un seul grand groupe, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien Dieu a essayé en ces derniers jours de réunir son peuple, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez voulu votre credo, alors maintenant vous êtes livrés à la destruction. Voilà ce que Jérusalem a reçu. Elle a été démolie, brûlée, elle n'existe plus. Et voilà exactement ce qui arrivera un de ces jours à toutes ces grandes choses d'ici. Vos grands credos et vos dénominations vont mourir et périr, mais la parole de Dieu sera éternelle et elle vivra à jamais. Voyez, ses blessures les plus profondes lui sont venues de la maison de soi-disant amis. Pensez-y. Arrêtez-vous. J'attends une minute. Ministre, pensez-y. D'où lui sont venues ces blessures? De la maison de ses soi-disant amis. Ce qui est arrivé à l'époque arrive de même maintenant. Pensez-y. Au calvaire, il n'était pas encerclé par des hommes sauvages, des barbares, mais par des ministres qui prétendaient l'aimer. Et aujourd'hui, alors que l'Évangile est parfaitement bien identifié, alors qu'il est éprouvé que les grands signes de sa résurrection sont parmi nous, ce ne sont pas les gens de la rue, là-bas, qui vous tombent dessus. Ce sont les soi-disant ministres. Ceux qui sont censés l'aimer, c'est eux qui l'encerclent aujourd'hui. Nous ne voulons pas de cette affaire-là parmi nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne donnerons pas notre appui. Nous n'aurons aucune collaboration avec ça, dans cette ville, si cette affaire-là se présente par ici. Ce n'est rien d'autre que du spiritisme, c'est du diable. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les aveugles conduisent des aveugles. Ce qui était arrivé en ce temps-là, pensez-y, arrive de même maintenant. Exactement ce qui était arrivé en ce temps-là, arrive de même maintenant. Pensez-y, sa puissance qui peut guérir et libérer des hommes et des femmes de l'amour du siècle présent. Des Jézabels aux cheveux coupés, au visage peinturluré, qui se disent chrétiennes et qui mènent ce genre de vie-là. Fumer la cigarette, raconter des histoires sales, s'asseoir là, une société missionnaire et un cercle de couture, et jacasser et cancaner, et sortir dans la rue en short et tout ce genre de choses. Ensuite, elle se déclare chrétienne devant les autres femmes. Vous vous rappelez l'histoire que j'avais racontée au sujet de l'esclave qui savait qu'il était fils de roi, du caractère qu'il avait. Que devrait-il en être de nous, des hommes et des femmes qui renient ces membres du clergé, ces chairs d'où on le perce? Ils acceptent et ils approuvent ce genre de vie-là parmi les gens. C'est là qu'on le perce. Ils renient la puissance qui peut les libérer de ces choses. Et ils les approuvent, alors que c'est contraire à la parole de Dieu pour une femme de se couper les cheveux, ou de se maquiller, ou de porter des shorts. C'est contraire à la parole de Dieu. Mais ils approuvent ça, ce qui produit un autre calvaire. Où ça? Dans la rue? Dans le bar? Du haut de la chair. Du haut de la chair. Et puis aussi, le cri, c'était quoi? Il se fait Dieu. Il nie sa divinité. Il cherche à le partager pour faire de lui trois ou quatre dieux. Alors qu'il est Dieu, qu'il était Dieu, qu'il sera toujours Dieu. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand vous leur parlez d'un seul Dieu, ils se moquent de vous. Nous croyons en une sainte trinité. Moi, je crois en un Dieu saint, un seul. Oui, monsieur, en sa puissance qui peut guérir, libérer et débarrasser ces gens-là de l'amour du monde. Les libérer, comme il l'a fait dans le cas de Marie-Madeleine. Souvenez-vous, elle aussi, c'était une petite Jézabel peinturlurée. Elle avait sept démons en elle. C'était une stripteaseuse. Tout comme la femme moderne qui circule dans la rue aujourd'hui. Allez où vous voudrez et regardez. Si vous ne croyez pas que les gens se prosternent devant le temple des femmes nues, jetez un coup d'œil dans la rue aujourd'hui. Ce qui arriva au jour de Sodome arrivera de même. Jetez un coup d'œil si vous ne le croyez pas. Vous n'avez qu'à aller n'importe où. Ouvrez un journal, ouvrez un magazine, regardez un panneau publicitaire. Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous vous souvenez de ce qu'il a été dit? Quand les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Regardez le scandale qu'il y a en Angleterre. Regardez le scandale qu'il y a ici. Regardez toute la chose. C'est devenu une maison de prostitution. Pourquoi donc? Pourquoi est-ce que la Russie est passée au communisme? À cause de la vulgarité et de la saleté et de l'absence de puissance de l'Église catholique. Et c'est précisément à cause de ça que cette nation y a été livrée, au communisme et à la fédération des églises, et qu'elle se joint à l'Église catholique. D'ailleurs, le communisme et le catholicisme vont s'unir, vous le savez. Et les voilà qui sont en train de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté l'Évangile, qui les met à part et fait d'eux un peuple différent. C'est précisément pour ça. Et les ministres du haut de la chair, ils tolèrent ça pour avoir un gagne-pain, pour avoir un rang social dans un credo quelconque. Dire « Je suis membre de ceci ». Ils substituent l'instruction à la puissance de Dieu, qui peut les libérer de cette race d'aliénés comme Marie-Madeleine l'a été. Cette même puissance qui avait pu s'emparer de cette petite stripteaseuse qui était à la rue, lui faire mettre des vêtements et la faire se conduire comme une dame. Faire d'elle une chrétienne. Ils ont condamné cette puissance-là et ils ont crucifié l'homme qui l'avait au calvaire. Et aujourd'hui, ce même évangile et ce même Saint-Esprit qui va s'emparer de la petite stripteaseuse et la faire s'habiller comme une dame et se conduire comme une chrétienne. Ils appellent ça du fanatisme. Ils ne veulent pas que ça se mêle à leur assemblée, que ça cause de la stimulation au milieu d'eux, que ça incite d'autres femmes à faire la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'expulsent, tout comme ils l'avaient fait en ce temps-là. Et maintenant, ils crucifient cette même parole et ils disent que c'était pour un autre âge. Je les accuse de nouveau, oui monsieur, exactement comme ils avaient été accusés en ce temps-là. Le signe qui a fait que le vieux Légion a mis ses vêtements. Rappelez-vous, une personne qui enlève ses vêtements est folle, voyez? Que dire d'une femme? Légion était fou, il avait enlevé ses vêtements. Dieu a pris sa puissance et lui a fait mettre ses vêtements. Il était vêtu et dans son bon sens, assis au pied de Jésus. Regardez la puissance qui a donné la vue au vieux Bartimée, au beau milieu de leur credo. Il était sur la terre au moment où il y avait autant d'incrédulité qu'il y en a aujourd'hui. Mais ça ne l'a jamais arrêté, il a continué. Il n'a pas pris de gants avec eux. Il leur a dit, « Vous avez pour père le diable. » Il a condamné toute la chose. La puissance qui a pu faire sortir Lazare de la tombe et qui a redonné son fils à la veuve de Naïn. Oh Dieu! La puissance qui a pu faire ces choses, qui a pu prédire les choses qui sont arrivées. Il y a deux, l'anon. Il y a un anon attaché au contour du chemin. Et toutes ces choses qu'il avait prédites. L'homme même qui possédait cette puissance. À mort, nous ne voulons pas de lui parmi nos fidèles. Il corrompt nos enseignements. Et ils l'ont crucifié. C'est exactement la même chose aujourd'hui. À mort, le Saint-Esprit. Ils ne veulent avoir rien à faire avec lui. Il condamne et il fait ces choses. Il parle à nos fidèles de ces choses. Et nous ne voulons pas mêler ça à nos organisations. Ça va à l'encontre de nos credos. Il le crucifie de nouveau. Oh là là. Remarquez maintenant, alors que nous terminons, il faut terminer. Et de nouveau, ils appellent ça du fanatisme. Et ils l'avaient traité, lui, de fanatique. Ils disaient qu'il était fou. Tout le monde sait que la Bible dit que Jésus était, que les pharisiens disaient que cet homme est un samaritain et il est fou. Or, le mot fou, qu'est-ce que ça veut dire? Cinglé. Cet homme est cinglé. C'est une bande de cinglés qui le suivent. Il est Belzébul. Et de nouveau, ils disent la même chose. C'est un genre de sorcellerie. C'est de la divination. Ils le mettent de nouveau sur la croix du déshonneur. Quelle croix? Quel déshonneur? Il est la parole confirmée. Ils rient de cela. Ils disent aux gens que c'est du diable. Ils en font quelque chose. Et appelle, il a dit qu'ils disent des œuvres saintes de Dieu, que c'est un esprit impur qui les fait. Il n'y a pas de pardon pour ça. Il déshonore sa parole. Il cherche à la dénoncer et à appeler ça de la frime ou du fanatisme. N'y allez pas. N'assistez pas à ces réunions-là. Ah, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se servent des clous de leur credo dénominationnel. C'est vrai. Ces docteurs en quête de plaisir, mondains, impies, atteints de folie dénominationnelle, qu'ils se servent des clous dénominationnels pour crucifier de nouveau le Fils de Dieu du haut de leur chair. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils aiment les louanges des hommes, les grades que l'Église peut leur conférer, plus que l'amour de la parole de Dieu. Je les condamne. Ils ne peuvent pas se conformer au monde parce qu'ils ne peuvent pas se conformer à la parole, parce qu'ils sont déjà en conformité avec le monde. Déjà, ils en sont là. Quel jour hypocrite que celui où nous vivons. N'est-ce pas un seul calvaire pour mon Seigneur? N'est-ce pas suffisant? Pourquoi voulez-vous faire ça? Vous qui êtes censé l'aimer. Vous qui savez que ceci est sa parole. Vous qui pouvez lire Apocalypse chapitre 22 qui dit « Quiconque retranchera une seule parole ou ajoutera une seule parole. » Pourquoi le faites-vous? Un seul calvaire pour lui, n'est-ce pas suffisant? Je prends sa défense. Je suis son avocat. Et je vous accuse par la parole de Dieu. Changez vos manières de faire. Sinon, vous irez en enfer. Vos dénominations vont être écrasées. Je vous accuse en présence du juge. C'est vrai. Vous, avec vos formes extérieures de piété, vos hypocrisies, pourquoi est-ce que vous appelez ça un seul calvaire? N'est-ce pas suffisant? Comme Pierre l'a dit, vos pères dénominationnels, Pierre vous a accusé par... Il a dit, lequel de vos pères n'a pas fait ceci? Étienne a fait la même chose. Par la main des impies, vous avez crucifié le prince de la vie. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit, lequel de vos pères n'a pas mis les prophètes dans le tombeau? Et après ça, vous les ornez? C'est ce qu'ils ont fait aux justes tout au long des âges. De même, moi aussi j'accuse cette bande de gens d'aujourd'hui, très raffinés et assidus à l'Église, qui rejettent Christ. Vous, avec vos formes extérieures de piété, vous crucifiez mon Christ une deuxième fois en disant aux gens que ces paroles s'appliquent à une autre époque et que ça ne s'applique pas aujourd'hui. Je vous accuse, vous êtes coupable du même crime qu'au jour de la crucifixion. Repentez-vous et convertissez-vous à Dieu, sinon vous périrez. Et je dis encore ceci, ici, les églises, ils, les docteurs, crucifient par un blasphème, lui, la parole. Que Dieu soit miséricordieux. Je vais répéter ça. Peut-être que ce n'était pas clair sur la bande. Ici, les églises, ils, le clergé, crucifient par un blasphème. Lui, la parole. Ce n'est pas étonnant que ceci se reproduise. Alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient, mon Sauveur courba la tête et mourut. Mais le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin. Je le dis sur cette bande et pour cet auditoire. Je dis ceci sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que celui qui est pour l'Éternel se soumette à cette parole. Certes, Dieu exercera un jugement sur cette génération méchante qui renie et qui rejette Christ pour avoir blasphémé pour la crucifixion de sa parole identifiée. Elle va passer en jugement. Je l'accuse que celui qui est pour l'Éternel, a dit Moïse, vienne à moi, alors que la colonne de feu se tenait là comme preuve. Que celui qui est pour l'Éternel prenne cette parole, qu'il renonce à son credo et qu'il suive chaque jour Jésus-Christ. Et je vous rencontrerai à l'aube. Inclinons la tête maintenant pour prononcer une prière. Ô Seigneur Dieu, donateur de la vie éternelle et auteur de cette parole, qui a ramené d'entre les morts le Seigneur Jésus, qui l'a très bien identifié devant une génération d'incrédules. Ça a pris beaucoup de temps ce matin. Beaucoup de gens sont restés assis ici. L'église est pleine à craquer. Des gens sont debout un peu partout. Et on est en train d'enregistrer les bandes qui vont aller partout dans le monde, dans différents endroits. Des ministres vont écouter ceci dans leur bureau. Je prie pour eux, Seigneur, que ces paroles descendent profondément dans leur cœur, qu'elles coupent profondément, qu'elles retranchent tout ce qui est du monde, afin qu'ils puissent dire comme le petit ministre méthodiste du Kentucky qui est venu me voir l'autre jour et qui disait, « Pendant que j'écoutais les sept âges de l'Église, j'ai entendu ce cri, Éloignez-vous des murailles de Babylone. Il disait, j'ai tout abandonné et je suis parti. Je ne sais pas quelle direction prendre, ni ce qu'il faut faire, mais je suis parti. Béni soit le courage de ce jeune homme qui a une femme et 2 ou 3 enfants. Oh Dieu, puissent beaucoup de gens se frayer en chemin jusqu'à la parole de Dieu. Le seul chemin de la vie, car il est la parole. Je prie pour chacun, Père. Quelquefois, on dit ces choses, mais ce n'est pas par cruauté, c'est par amour, parce que l'amour est correctif. Alors je prie, ô Dieu, que les gens comprennent que c'est le cas ici, que ces choses sont dites pour corriger. Toi, qui avais dû les corriger, et qui as prié pour eux à la croix, en ces mots, Père, pardonne-leur, ils sont aveugles, ils ne comprennent tout simplement pas ce qu'ils font. Je prie pour ces ministres aujourd'hui qui crucifient de nouveau la parole en prenant leur credo, leur dénomination et leur dogme et en les substituant à la parole de vie. Et puis, devant les gens, ils critiquent la vérité vraie que Dieu confirme comme étant sa vérité. Nous prions pour eux, Père, que tu les convies de nouveau au souper des noces. Et cette fois, puissent-ils venir au lieu de chercher des excuses. En effet, je suis conscient que le dernier appel pourrait déjà avoir été lancé. Il se pourrait qu'il soit trop tard maintenant. J'espère que non. Bénis cette petite assemblée ici présente. Ces quelques centaines de personnes qui se sont rassemblées ici ce matin, en cette journée chaude, qui sont restées assises ici pendant un service très long, de peut-être 2 heures ou plus, et qui ont écouté. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés tranquillement assis et ils ont écouté. Beaucoup d'entre eux ont un dîner qui les attend. Et les femmes sont là avec leurs bébés, elles attendent. Ils s'accrochent à chaque parole. Seigneur, je suis conscient de ce qui m'arrivera au jour du jugement si j'induis ces gens en erreur. J'en suis conscient, Seigneur, aussi conscient que je peux l'être. Alors, je cherche à les amener à la parole et à faire en sorte qu'ils vivent de la parole. Je leur dis que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le grand Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ, tout simplement, sous la forme du Saint-Esprit. Le même homme, c'est ce que tu as dit. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous. Et je sais que ceci, c'est toi, Seigneur. Et nous croyons en toi, parce que nous te voyons faire la même chose au milieu de nous. Aujourd'hui, nous nous abandonnons sérieusement. Nous le faisons, nous qui sommes ici dans cette assemblée, ainsi que ceux qui sont à l'écoute des bandes, Seigneur, à l'instant même. Puissent, hommes et femmes, garçons ou filles, tous ceux qui sont ici présents, ou debout à l'extérieur, ou qui l'entendent sur la bande, puissions-nous en ce moment faire une consécration profonde et abandonner notre être entier au service de Dieu. Agis sur l'auditoire, Seigneur, avec puissance, et guéris les malades. On m'a dit qu'il y avait un petit garçon infirme assis là-bas. Que le grand Saint-Esprit, nous savons que rien que d'être assis dans sa présence, comme ceci, c'est suffisant pour accomplir cela. Si tu peux, en passant par les ondes de la radio et de la télévision, aller dans toutes les régions et guérir les malades. Tu as envoyé ta parole et elle les a guéris. Tu peux faire la même chose à l'instant même. Je te prie, ô Dieu, de guérir tous les malades, tous les infirmes, tous les affligés, ceux qui sont ici, de même que ceux qui écoutent ces paroles. Ô Dieu, accorde-leur. J'adresse cette prière pour eux. Avec l'amour de Christ dans mon cœur et avec de la sympathie pour ceux qui ont des besoins. Je te les présente, Seigneur, sur l'autel du sacrifice, là où se trouve le corps couvert de sang de cet agneau, qui est là comme victime expiatoire pour nos péchés et pour la maladie. J'implore ta miséricorde sur les gens. Je veux, comme Moïse l'a fait, me tenir à la brèche pour eux, Seigneur, et dire, ô Dieu, sois miséricordieux pour eux, envers eux, encore un peu, et laisse-leur encore une chance. Ne le fais pas tout de suite, Seigneur. Permets que l'Évangile continue à avancer, juste un peu encore. Ils sont condamnés, Seigneur. Je prie que ta grande miséricorde et que ta grâce s'étendent jusque sur la dernière personne dans le nom et dans le livre. Et je sais qu'elles le feront. Ce n'est pas difficile de prier contre ta parole divine ou contre, selon la parole divine. C'est ce que je veux dire, Seigneur. La parole qui a été promise, la parole qui a été confirmée, la parole qui a prédestiné ces gens dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas difficile de te prier de sauver ceux dans le nom et dans le livre, parce que je sais que tu le feras. Jésus l'a dit, tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Et nul ne peut venir si cela ne lui était donné. Maintenant, je prie au Dieu que partout où tomberont ces paroles, sur ceux qui écouteront la bande aussi bien que sur ceux qui sont ici présents, que maintenant même, le Saint-Esprit appelle toutes les personnes qui ont été prédestinées, dès la fondation du monde, où leur nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau, puissent-elles entendre la voix de Dieu parler aujourd'hui, avec cette toute petite voix tranquille au fond de leur cœur qui dit « Voici le chemin, marche-y, accorde-le, Père, je le demande au nom de Jésus. » Et en ce moment, pendant que nous avons la tête inclinée ici dans l'auditoire, si vous croyez que ceci est la vérité et que j'ai posé ma main sur les mouchoirs qu'il y a ici et sur les paquets destinés aux malades et aux affligés, je voudrais vous poser une question, sincèrement, là. Je ne viens pas ici simplement pour être entendu. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je ne suis plus très jeune, et je sais que nos jours sont comptés. Et je sais que je dois faire tout ce que je peux pour le royaume de Dieu. Je dois prêcher chaque fois que j'en ai la possibilité. Je dois y aller, que j'en ai envie ou pas. Si je viens ici, c'est parce que j'ai à cœur de le faire. Je veux le faire. Je vous aime. Et je ne dis pas des choses désagréables et dures pour parce que je le veux. Il y a quelque chose qui palpite à l'intérieur de moi. Cette chose qui était confirmée, c'est justement ça qui me pousse à faire ces choses. Je le dis avec bienveillance, avec amour. Mon intention n'est pas de réprimander nos femmes et nos hommes. Mon intention, ce n'est pas ça, frère, sœur. Ma seule intention est de faire ressortir nettement devant vous, vous faire voir la correction et le fouet du Seigneur, que vous devez entrer maintenant. Ne remettez pas ça plus tard. Vous pourriez avoir attendu trop longtemps. Et ceux d'entre vous qui veulent venir dans le camp de l'Éternel, avec un abandon total dans votre cœur, en présence de l'auditoire maintenant, ou bien dans le pays où iront les bandes, est-ce que vous voulez, avec la tête inclinée, ne levez pas la main si vous n'êtes pas sérieux. Maintenant, si vous êtes vraiment sérieux, que vous voulez venir au Seigneur, avoir une vie plus consacrée, voulez-vous lever la main maintenant même? Vous, que le Seigneur vous bénisse, vous vous consacrez de nouveau à Christ pour essayer de porter l'opprobre. Vous dites, je suis prêt aujourd'hui à accepter l'opprobre. Moi aussi, j'ai les deux mains levées. Je veux porter l'opprobre de Jésus-Christ sur moi. Je porte volontiers cette marque d'être appelé un exalté, ou quel que soit le nom que vous voudrez donner à ça. Je la porte fièrement, parce que c'est pour le Seigneur que je le fais. Je la porte fièrement. Ne voulez-vous pas faire la même chose? Levez les mains et dites, par la grâce de Dieu, je veux... Les disciples sont revenus. Ils considéraient que c'était un grand honneur de porter l'opprobre de son nom. Ou voulez-vous plutôt porter l'opprobre d'une vedette de Hollywood, ou de quelque chose de la télévision, ou d'un membre d'église, ou quelque chose comme ça? Ou bien voulez-vous l'opprobre de la parole de Jésus-Christ? Donne-moi l'opprobre de la parole, Seigneur. Je sais qu'il a porté l'opprobre de la parole de Dieu, que moi aussi je le porte, Seigneur. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors, je rentrerai à la maison pour porter une couronne. Un jour, il y aura une couronne pour nous. Elle est en fabrication maintenant. Quand cette vie terrestre sera écoulée, nous savons qu'à ce moment-là, elle sera telle qu'elle doit être. En ce moment, il n'y a pas assez de place pour qu'on fasse venir les gens autour de l'autel. Que votre siège, là où vous êtes, que ce soit en autel. Tous ceux qui crurent pendant que nous prions. Père Céleste, il m'a semblé que presque toutes les mains, des jeunes comme des vieux, étaient levées dans cet auditoire. Et je prie que chaque fois qu'on fera jouer cette bande, que les gens lèveront leurs mains et s'agenouilleront dans la pièce. Que le papa et la maman se prendront par la main et qu'ils diront, « Chérie, ça fait assez longtemps que nous sommes des membres d'Église. Venons à Christ. Accorde-le, Seigneur. Bénis ces gens qui sont ici. Je te prie de leur donner, Seigneur, une vie consacrée. Beaucoup d'entre eux, Seigneur, sont de braves gens. Ce sont les tiens. Mais c'est qu'ils n'avaient pas connu la vérité. Aussi, je te prie de leur montrer ta vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité. Comme tu l'as dit dans Jean, vers le chapitre 17, je pense, tu as dit, « Sanctifie-les, Père, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Et elle l'est encore. Ta parole est encore la vérité. Elle est toujours la vérité, parce qu'elle est Dieu. Et je te prie, ô Dieu, de les sanctifier par la vérité, c'est-à-dire sanctifie-les, purifie-les de tous les credos et de toutes les dénominations. Purifie-les de toutes les choses du monde, pour qu'ils aient une vie consacrée à la parole. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, ils sont à toi. Tu as promis de le faire. Et comme ton serviteur, j'offre ma prière pour eux, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec nos têtes inclinées, chantons ce cantique pendant que nous continuons à prier.
Jesus paid all to him. Think of it. Yesterday I was in a place.
Hier, j'étais quelque part. Un homme prenait mes mesures pour un complet qu'un frère de cette église m'a acheté. Il m'a dit, votre complet avait l'air de donner chaud, alors je vous en ai acheté un plus léger. Je suis donc allé le faire raccourcir. Et il disait, dites donc, votre épaule droite s'affaisse. À un moment donné, vous avez dû porter une lourde charge. Et je me suis dit, oui, une charge de péché. Mais Jésus a tout payé. Écoutez, pendant que nous le chantons.
Jesus paid all, then all my life to him.
Qu'est-ce que le péché avait fait?
Sin had left a crimson stain. He washed it white.
Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous pendant ce moment de profonde méditation. Que la parole s'imprègne profondément, Seigneur, dans le cœur. Que les gens, même s'ils sont en retard pour leur dîner, mais Seigneur, ceci, c'est plus que de la nourriture. Ceci, c'est la vie. Ma parole est une nourriture, as-tu dit. Et c'est d'elle que se délectent nos âmes affamées. Maintenant, prends-nous, Seigneur, et façonne-nous. Seigneur, prends-moi, moi aussi, avec eux. Je veux y aller avec eux. Je monte au calvaire maintenant, Seigneur, par la foi. J'y vais avec cette assemblée. Maintenant, façonne-moi de nouveau, Seigneur. J'ai mal agi. Il y a bien des fois où je, dernièrement ici, je voulais tout simplement arrêter de prêcher. Les gens ne voulaient pas m'écouter. Ils continuaient toujours à faire la même chose. Alors je me suis découragé. J'en ai fait un complexe. Ô Dieu, un dimanche, il y a quelques semaines, quand tu m'as donné ce signe là-bas, je lisais dans la Bible et j'ai vu que tu avais dit à Moïse, exactement comme dans le songe, où il y avait une montagne aussi et que ça, ce serait un signe pour lui. Et puis, juste à la fin, pour que je sache, alors que j'avais abandonné beaucoup de malades. Un ministère non seulement prophétique, mais d'enseignement de la parole et de prière pour les malades. Tu as laissé un homme tomber raide mort à terre, ici même. Ensuite, tu l'as ramené à la vie pour confirmer que c'était vrai. Tu confirmes toujours ta parole. Maintenant, Seigneur, confirme-la en ce moment où je suis devant ton trône. Prends chacune de ces personnes, Seigneur. Débarrasse-nous de ce qui est du monde. Prends-moi, Seigneur, pendant que nous sommes dans ta présence. Ôte tout ce qui est du monde. Tords-nous le cœur, ô Dieu, maintenant même. Arrache de nous le monde et les soucis du monde. Donne-nous d'être des chrétiens consacrés. Ô Dieu, d'être affectueux, gentils et doux, en portant le fruit de l'Esprit. Ne veux-tu pas le faire, Seigneur? Nous sommes devant ton trône. Le péché a laissé une tache cramoisie sur chacun de nous. Mais ton sang peut en faire la rémission, Seigneur, et le rendre blanc comme la neige. Accorde-le pendant que nous nous attendons à toi. Prends-nous, nous sommes à toi. Nous t'avons consacré nos vies au nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur, à chacun de nous. Tords-moi le cœur, Seigneur. Je vois toutes mes erreurs, je vois mes fautes. Ô Dieu, à partir de maintenant, je vais essayer de vivre du mieux que je peux pour t'aider. Je veux aller, je veux consacrer de nouveau ma vie à toi, ici ce matin. Après avoir porté cette accusation contre mes amis, membres du clergé là-bas, alors que j'ai été obligé de dire ces choses qui étaient dures. Mais Seigneur, je l'ai fait par ton inspiration. J'ai le sentiment que c'est toi qui m'as dit de le faire. Maintenant, ce n'est plus sur mes épaules, Seigneur. Je suis content que ce ne le soit plus. Qu'ils en fassent ce qu'ils voudront, Père. Je prie qu'ils l'acceptent. Je te prie de sauver chacun d'eux, Seigneur. Qu'il se produise un réveil des justes et qu'une grande puissance vienne dans l'Église juste avant son départ. Ce n'est pas difficile de faire cette prière-là parce que tu l'as promis. Et nous attendons, Seigneur, ce troisième poule dont nous savons qu'il accomplira de grandes choses pour nous au milieu de nous. Je suis à toi, Seigneur. Je me dépose moi-même sur cet autel, aussi consacré que je peux l'être. Ôte de moi ce qui est du monde, Seigneur. Ôte de moi les choses périssables. Donne-moi les choses impérissables. La parole de Dieu. Que je sois capable de vivre tellement près de la parole, que la parole sera en moi et moi dans la parole. Accorde-le, Seigneur, que je ne m'en détourne jamais. Que je tienne cette épée du roi vraiment solidement et que je la serre très fort. Accorde-le, Seigneur. Bénis-nous tous. Nous sommes tes serviteurs. Alors que nous nous consacrons à toi ce matin de nouveau dans notre cœur. Nous sommes à toi, au nom de Jésus-Christ, à ton service. Jésus, que Dieu vous bénisse, frère Neville.